BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur le web et puis bien sûr, vous le savez, en podcast à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Nous sommes vendredi 22 mars 2024. Nous allons parler des introductions en bourse à Paris. C'est fini pour les actionnaires individuels, les actionnaires individuels. On a besoin d'explications. Pourquoi les particuliers ne pourront plus participer? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? François Monnier, des rédactions d'Investir, pour nous décrypter cela. Les 7 fantastiques en bourse, c'est aussi fini. On assiste à des évolutions de cours en ordre complètement dispersé. Antoine nous l'a commenté cette semaine depuis Euronext. On va essayer d'analyser avec nos experts, dont Antoine depuis Euronext et aussi Antoine Fraisse-Soulier d'Itoro et toujours François Monnier, essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis on aura nos deux traders, comme tous les jours, le match des traders pour décrypter la séance en cours du côté du CAC 40. À 10h30, comme tous les jours, votre dose d'économie avec Nicolas. Faut-il monter les impôts? C'est la question à laquelle il répondra vers 10h30. Aujourd'hui, on vous coach pour essayer de mieux comprendre ce qu'on appelle les éléments déjà pricés par le marché. Qu'est-ce que ça signifie? C'est Marc Raffard du Café de la Bourse qui vous coachera. Et puis, on fera le point sur la semaine des cryptos. Vous le savez, le Bitcoin a perdu près de 15% de sa valeur après avoir atteint des sommets historiques. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est l'équipe de CoinHouse qui sera avec nous pour comprendre tout cela. Et puis, au programme, il y a vous. Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous écouter en podcast. Merci à vous. Vous continuez à nous écrire. Vous continuez également à nous suivre. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn en message privé. Nous partons rejoindre Antoine du côté d'Euronext pour faire le point sur la séance. Il est 10h05 sur BFM Business.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Cher Antoine, légère baisse du côté de Paris, un marché qu'on peut qualifier d'assez indécis.
Oui, Lorraine, c'est vrai qu'on termine cette semaine, bon, qui aurait été particulièrement riche en actualité, notamment en matière de décisions et de commentaires des grandes banques centrales sur l'état des marchés et les dynamiques monétaires. On était plutôt positif, on a signé un nouveau record historique sur le CAC 40 hier à l'ouverture. Puis là, effectivement, la tendance est un petit peu plus indécise, malgré une clôture en hausse du côté de Wall Street. Un CAC 40 qui perd donc 0,2% à 8163 points. Alors, singulièrement, les valeurs de croissance sont quand même en bas de tableau. On va le voir, mais l'Euronext Tech Leaders est en repli de 0,45% et c'est un petit peu plus mitigé du côté des autres places européennes. On a le DAX à Francfort qui gagne 0,1%, l'Eurostock 50, moins 0,37%. Alors très très clairement, les valeurs de croissance en bas de tableau, ça se voit à Paris sur le CAC 40, LVMH, moins 2,23, on est à 829 euros, Hermès, moins 1,93 à 2363, on a Dassault Systèmes, moins 39 à 40,69 euros, et puis de la tech, hein, on le voit, ST Microelectronics hein, qui recule d'un 1,11% à 40,07. On a Dassault Systèmes à moins 1,39 à 40,69. Capgemini aussi moins 0,28 à 215 euros. En revanche, à la hausse, alors très amusant, dans cette séance un petit peu indécise, on revient sur les dossiers en difficulté hein, de la thématique que vous évoquiez d'ailleurs hier, Lorraine, dans votre émission. On a EuroAPI hein, qui reprend quasiment 5% à 2,52 euros. Sur le SBF 120, on a aussi Atos qui signe un rebond assez impressionnant, plus 3,9% à 1,76€. Téléperformance aussi, plus 3,46€. On est à 91,50€. On retrouve un petit peu d'appétit pour le risque sur ces dossiers-là. Mais on est vendeur sur les sociétés les plus solides qui ont signé de bonnes performances ces dernières semaines. Au milieu de tout ça, le CAC donc sur une légère baisse. On est à moins 0,17%. 8165 points. Et du côté de l'euro face au dollar, 1,0821. On a du mal à trouver des supports hein, depuis qu'on a passé à la baisse le seuil d'1,09.
Voilà, merci beaucoup Antoine. On vous retrouve dans une heure pour faire le point sur la séance et puis aussi pour faire le plein de surprises parce que vous avez décortiqué les chiffres hebdomadaires de Merrill Lynch. Et il y a des petites surprises dedans. On en parle dans une grosseur avec vous. Pour le moment, on va faire le point sur les actualités patrimoniales, financières qui ont besoin d'être maîtrisées par vous pour être meilleurs investisseurs.
Tout pour investir. Le journal de votre argent.
Et notre rédacteur en chef, le vendredi, on l'emprunte aux rédactions d'Investir. Bonjour François Monnier.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes avec nous ce matin comme un croque-mort. Vous allez nous enterrer deux éléments importants de notre vie d'épargnant. D'abord, pour les actionnaires individuels, c'est fini les introductions en bourse à Paris. Racontez-nous.
Oui, c'est presque fini. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un énorme lobbying des banques pour obtenir le fait qu'il n'y ait plus besoin d'allouer 10% du capital d'une société qui s'introduit à destination des particuliers. Les investisseurs institutionnels peuvent racheter la totalité des titres qui se présentent et qui sont donc offerts lors d'une introduction en bourse. Ça aura bien sûr beaucoup de conséquences. La première, c'est que ça exclut bien sûr les actionnaires individuels des introductions en bourse. Et l'argument qui est avancé par les banques, c'est d'expliquer que le fait qu'il n'y a pas d'introduction en bourse et que le fait qu'il y ait des particuliers, eh bien, ça gêne la rapidité d'exécution d'une introduction en bourse, et ce serait une des raisons qui expliquerait qu'il y ait peu d'introductions. Et c'est vrai que l'année dernière, c'était une année catastrophique au niveau des introductions en bourse. Mais il n'y a pas beaucoup d'IPO non plus aux États-Unis ni en Europe. C'est un phénomène global, parce qu'aujourd'hui, on assiste à une vraie concurrence entre le private equity, qui est capable de lever maintenant des sommes assez importantes par rapport aux actifs cotés. Et donc, finalement, la concurrence, et ils sont prêts à payer des prix plus importants aussi. Donc, il y a une vraie concurrence entre le private equity, le capital risque et la bourse. Et au cours des deux dernières années, c'est le capital risque qui a remporté la bataille. Donc l'argument de dire il n'y a pas d'introduction en bourse, ce sont les particuliers qui freinent, la réponse est non, parce que quand on regarde au niveau mondial, c'est pas décisionnaire. La deuxième chose, on dit souvent on a du mal à introduire en bourse des entreprises parce que il n'y a pas assez d'argent, on manque de capitaux, et les capitaux, on les trouve à Wall Street. Mais si vous supprimez l'afflux des particuliers pour les introductions en bourse, vous n'allez pas avoir beaucoup plus d'argent, puisque vous coupez d'un robinet. Donc le deuxième argument qui est de dire il ne tient pas. Et puis après, on voit que, et c'est ça, c'est quelque chose qui est très important, et on l'a encore vu pendant le Covid, un actionnaire individuel, c'est un investisseur qui garde ses titres en période de crise. Et donc, ça réduit un petit peu la volatilité d'une action. Pendant le Covid, tous les institutionnels ont fui la bourse. Et les particuliers, eux, sont restés, et ils ont bien fait parce qu'ils se sont enrichis. Parce qu'il fallait tenir, il fallait avoir un peu de sang-froid, et on a vu qu'après, il y a eu un énorme rallye boursier. Donc, les arguments qui est de dire, après, on peut les comprendre pour un banquier. Le banquier, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir faire une vente à la Black Friday, c'est-à-dire, j'introduis en bourse une société, je prends une grosse commission, et en 48 heures, c'est bouclé. Et c'est vrai que quand on autorise les particuliers à participer à une introduction en bourse, il faut 6 séances de bourse. Donc c'est sur 6 jours.
C'est presque le temps long.
C'est presque du temps long. Sauf que intellectuellement, c'est une aberration de dire que on se lève le matin et on achète des actions comme une baguette de pain, parce que la baguette de pain, à la fin de la journée, probablement elle sera mangée. Alors que les actions, vous allez les garder pendant même plusieurs années. C'est du temps long, c'est de l'épargne longue, et c'est comme ça qu'on fait de la performance. Donc se dire qu'il faut absolument faire des ventes flash au moment d'une introduction en bourse, ça rime à rien. Si on n'est pas capable de dire que le prix de cette société, à peu près, on prend l'exemple, c'est 10 euros cette société, et qu'on n'est pas à l'aise de tenir ces 10 euros pendant une semaine, ça veut dire que ce n'est pas le bon prix. Ça veut dire que le prix, il est trop élevé. Alors c'est vrai que la conjoncture peut évoluer. Mais et quand même, si la société, on n'est pas capable de l'évaluer pour 6 jours, ça veut dire qu'il y a un problème sur le modèle économique, sur les prévisions, sur la solidité des objectifs. Et donc là, ça remet en cause un peu le modèle. Parce que vraiment, la bourse, c'est du temps long. C'est un investissement long. Donc on ait le temps de réflexion de pas quelques heures, mais quelques jours, ça me paraît être du bon sens. En tout cas, la philosophie du marché action, c'est pas de faire des ventes flash, c'est pas du Black Friday, c'est de l'épargne, et c'est de l'épargne qui sert à financer l'économie, ça sert à financer les entreprises, ça sert à financer aussi les retraites des épargnants. Donc l'écosystème est fait pour que ça soit de l'épargne longue, et non pas, faut pas présenter une introduction en bourse comme une vente flash. On doit la terminer en 48 heures, voire si c'est possible en 12 heures.
Voilà, une mauvaise idée qu'on aimerait bien voir enterrée. Une autre chose ou d'autres éléments que vous enterrez ce matin, si je puis dire, François, ce sont les 7 fantastiques. En tout cas, d'un point de vue boursier, les 7, c'est fini.
Absolument. D'abord, c'est une terminologie qui est née au cours de l'été dernier, parce qu'on s'est rendu compte que il y avait le S&P, il y avait le Nasdaq, et il y avait cette valeur qui semblait ne plus répondre aux lois de la gravité. Et c'était ces sept valeurs qui emmenaient les bourses mondiales, Wall Street, le S&P et le Nasdaq à des sommets. Et on avait une cohérence, ces sept valeurs montaient, j'ai envie de dire, enchaîner des séances positives les unes après les autres. Et c'est cette valeur, ben là on voit depuis le début de l'année que c'est plus du tout la fête. Et que déjà dans les 7 fantastiques, il y en a 2 qui sont plus du tout fantastiques. D'abord on a Tesla qui connaît vraiment une énorme chute, hein, ça perd près de 30% alors que Nasdaq progresse et que les autres fantastiques arrivent à progresser. Donc on a un acteur qui est à contre-courant. Nvidia à l'extrême gagne plus de 85% et vous avez Tesla à moins 30%. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Tesla n'a plus de croissance. Il y a une guerre des prix qui est arrivée d'Asie et notamment de Chine. Donc, ils ont encore de la hausse en termes de volume, mais pas en chiffre d'affaires. Et donc, bien sûr, ça change l'appréciation parce que si vous êtes fantastique, vous devez continuer à faire rêver. Et là, comme il y a un problème sur le rêve, eh bien, on a un déclassement de Tesla. Autre déclassement qui est en cours, c'est celui d'Apple. Apple est en baisse de près de 10% depuis le début de l'année. On voit que la croissance, elle commence à ralentir. Il y a des problèmes de commercialisation des iPhones en Chine. Et puis là, cette semaine, on a l'autorité... Enfin, il y a le département américain de la justice qui est en train de mener une enquête en disant qu'il y a peut-être une position abus dominante dans le domaine des smartphones. Et donc, c'est vrai qu'ils ont un produit qui fait rêver tout le monde, mais...
Et qui coince un peu les gens dans leur écosystème.
Est-ce qu'il, au niveau des applications qui arrivent pour essayer de circuler sur un iPhone, est-ce qu'elles sont pas gênées? Est-ce qu'il y a des problèmes de commission, etc. Donc il y a une vraie enquête, ça déstabilise bien sûr le modèle économique. Et on a Apple qui est en train de décrocher. Alors que les autres continuent de raconter des belles histoires. Mmh. Et quand on voit le dénominateur commun de celles qui sont capables encore de progresser, eh ben il y en a qu'un, c'est l'IA. C'est l'IA qui continue d'emmener les acteurs plus haut. Nvidia en tête parce qu'aujourd'hui c'est l'acteur 100% IA, mais on a aussi Microsoft avec ChatGPT et on a aussi Amazon et Alphabet. Amazon, ben, c'est le cloud, hein, parce que comme vous le savez, quand on utilise de l'IA, on a besoin de plus en plus de serveurs. Mm-mm. Et le champion du cloud et des serveurs, eh ben, c'est Amazon. Et puis on a Alphabet qui est en train de travailler à une IA compétitive par rapport à celle de ChatGPT, et donc ça fait rêver les investisseurs. Et donc on a encore j'allais dire une tendance positive, mais ils sont plus 5, ils deviennent 5.
Ils sont plus 7,
ils passent à 5.
Voilà, c'est un peu les 10 petits nègres là. Au fil des semaines, on a peur
Exactement.
D'en perdre encore.
Donc on va voir combien il en reste à la fin du semestre.
On verra ça avec vous au fil des semaines, cher François. Merci pour cet enterrement de rigueur des éléments boursiers qui nous font vivre au quotidien. Vous restez avec nous, François. On va passer une tête chez nos traders pour comprendre ce qu'on fait dans une journée comme ça, un petit peu de la décision côté CAC 40. Et puis après, on vous retrouve, François, avec nos autres chroniqueurs pour décrypter l'actualité plutôt boursière ce matin.
Tout pour investir, le match des traders.
Nous sommes ce matin avec Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Et nous avons
bonjour tout le monde.
Également bonjour. Dorian Abadi, analyste chez Meilleur Taux, qui est avec nous. Bonjour Dorian.
Bonjour Lorraine.
Dorian, que fait-on dans une journée comme ça qui démarre un petit peu dans l'indécision? Quels sont vos conseils? Quels sont les niveaux techniques que vous allez surveiller aujourd'hui?
Oh, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire ce vendredi dans la mesure où on n'attend aucune actualité majeure sur le front économique. Pour le moment, le CAC 40 perd aux alentours de 0,20%. On a surtout, en fait, face à cette baisse, les 8150 points et par extension les 8100 points comme objectif à la baisse. Et puis à nouveau, les 8200, voire les 8300 pour la semaine prochaine, puisque c'est vrai qu'on termine une semaine chargée. Et qui a failli assez mal se passer d'ailleurs pour le CAC. Hein. On sauve les meubles pour le moment. Il est globalement à l'équilibre depuis lundi matin avec un nouveau record sur les 8230. Mais à nouveau, ce vendredi, c'est vrai que le marché est toujours largement piloté par les volumes investis, par les algorithmes, relativement peu par les opérateurs humains. Donc voilà, c'est une séance assez calme qui nous attend faute d'actualité majeure. Et puis surtout, on continue de digérer les tensions sur le marché du luxe, hein, puisque LVMH perd un peu plus de 2% ce matin. Alors vous le savez, hein, c'est la première capitalisation du CAC, ça tire sa tendance à la baisse naturellement ce matin. Et puis pour rappel, voilà, on a eu cet avertissement sur résultat de Kering il y a deux jours, moins 10% sur le chiffre d'affaires attendu au premier trimestre. Ça continue de peser sur la performance de l'indice français, qui est fortement pondéré sur le luxe. Voilà. Donc c'est surtout ce sujet, l'impact du luxe sur le CAC, que l'on va surveiller aujourd'hui chez Meilleur Taux Placement en attendant les échéances de la semaine prochaine.
Et vous, Jean-Louis, de votre côté, comment finissez-vous cette semaine qui a failli mal se passer, nous disait Dorian?
Bah écoutez, j'espère la finir en roue libre, comme ça on va se reposer un petit peu, mais c'est vrai que c'était un peu animé. Donc, on a une volatilité implicite qui baisse tout doucement, on est à 10,2, on n'est pas... Il faut pour rentrer dans une phase de complaisance que ça dure un petit peu. Hein. Donc, il ne faut pas imaginer que parce que elle baisse, on va immédiatement avoir un état de complaisance. Non, c'est pas comme ça. On est à 380 millions, en dessous de 400 millions de volume. Donc, c'est encore assez faible. Les marchés, si vous voulez, sont vraiment. Ils se disent qu'on a peut-être atteint quelque chose parce que regardez LVMH aujourd'hui elle perd 2%, là bon elle remonte un petit peu à 90 mais personne n'y croyait au début de l'année, elle a pris 37%. Donc aujourd'hui c'est elle qui pèse un peu sur la sous-performance du CAC 40 par rapport au DAX par exemple. Donc ça amène, si vous voulez, ça, c'est une addition de choses comme ça, de petites indications, de petits warnings, de petits clignotants, qui nous fait peut-être penser qu'on est peut-être au bout de quelque chose, donc au bout de la hausse. Pour l'instant, c'est juste des clignotants d'arrêt au stand. Mais c'est vrai que bon, voilà, ça peut pas continuer éternellement de progresser. Il faut en être conscient. Nous ce matin, on a fait acheter à partir de 8000, de l'ouverture en gros, c'était possible 8170-75, jusqu'à éventuellement un repli jusqu'à 8145. Alors je parle du futur CAC 40, le futur, il est à peu près 28 points au-dessus du cash. Hein, c'est le taux d'intérêt, moins les dividendes, mais là, Total a distribué, donc du coup, on devrait rester à peu près stable comme ça. On voit que par exemple, Téléperformance cicatrise, et puis elle commence à s'améliorer un peu. Mais il y a de la prudence et c'est toujours la même chose en fait. Vous avez les valeurs fortes qui restent fortes et les valeurs faibles qui restent faibles. Et ce phénomène, c'est y compris dans les valeurs du CAC 40. Ça montre une hyper méfiance des opérateurs, des investisseurs. Par exemple, bon, ben, sur les mid et small, toutes celles qui sont au tapis, et même les grosses, hein, c'est ce que je vous disais, celles qui sont au tapis, ben, on hésite à aller dessus parce qu'on se dit, si elle est là, c'est que quand un marché est à 8002, difficile de se dire qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas montée précédemment, ça veut dire qu'il y a des problèmes, donc il faut faire attention et on les achète pas vraiment. Parfois, la spéculation qui s'est fait avoir à plusieurs reprises est très calme actuellement parce que on s'est aperçu que sur les mid et small, la volatilité de la liquidité est extraordinairement forte, c'est-à-dire tout d'un coup, on croit qu'il y a du volume, ça vient, c'est de la spec, et puis ça disparaît en 5 secondes. Donc voilà, il y a une situation de méfiance. On constate que l'euro-dollar a beaucoup rebaissé, même totalement effacé sa hausse de la Fed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réflexion à froid, qui provoque le retour en arrière de l'euro-dollar, ben on se demande pourquoi ça ne fait pas un peu la même chose sur les actions. Non, les actions restent toujours extrêmement résilientes. Et à regarder les choses donc en rose, avec des flux, et c'est vrai que Dorian l'a dit quand il a commencé, des flux ETF toujours investissement, enfin avec des inflows importants, il y a à peu près 20 milliards par an sur les actions, etc. Donc voilà, on a une situation un peu importante à surveiller, un petit peu, il n'y a pas de message encore, si vous voulez, il n'y a pas de message fort, ça va faire qu'on va être hyper méfiant, tranquille, et puis je vous dis, on va espérer que ce soir, jusqu'à la clôture de New York à 21h, on soit encore dans une situation un peu de repos, on va dire. Bon. Ça serait pas mal.
Merci beaucoup, cher Jean-Louis, qui va finir, il l'espère, en roue libre sa journée sur les marchés. Merci à tous les deux, Jean-Louis Cuissac de chez Perceval Finance Conseil et Dorian Abadi de chez Meilleur Taux pour ce décryptage du vendredi matin. Vous restez avec nous, on continue à parler des actualités qui vous concernent en tant qu'investisseur.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Et l'équipe du vendredi, François Monnier à sa tête, directeur des rédactions d'Investir, est toujours parmi nous. Rebonjour François.
Bonjour.
Nous sommes rejoints par la paire d'Antoine. Antoine Fraisse-Soulier de chez Itoro est avec nous. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et Antoine Larry-Gaudry de Puronext connecté avec nous pour parler rapidement quand même d'une introduction en bourse qui a eu lieu hier, celle de Reddit. Antoine Fraisse-Soulier, vous nous racontez ?
Oui, alors effectivement, c'est pas comme en France où aux États-Unis on a des IPO. Alors Reddit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau social qui a énormément marché puisqu'il y a 268 millions d'utilisateurs hebdomadaires, connu notamment pour Wall Street Bet, hein, qui a fait monter les mêmes stocks, notamment GameStop, etc. Alors Reddit, c'est une société qui aujourd'hui n'est pas rentable, qui perd de l'argent, hein, qui a perdu 90 millions de dollars en 2023 pour 800 millions de chiffre d'affaires. Ceci étant, ce premier jour d'introduction nous rappelle d'ailleurs les journées en 2021 lorsqu'on avait des boîtes tech qui prenaient 30-40%. Reddit a pris 47% pour le premier jour de son introduction en bourse. Voilà, donc un engouement énorme puisque l'action a été sursouscrite à 5 fois. Voilà, donc vraiment, premier jour en fanfare pour Reddit. On verra par la suite si ça continue, mais un engouement incertain pour cette société.
François, votre regard dessus ?
Ouais, moi, j'attendrai que l'engouement retombe un petit peu pour m'intéresser à la société. Il faut voir que son cours de bourse va beaucoup être dépendant, un, de la volatilité du marché, et deux, l'orientation de la bourse. C'est-à-dire que c'est un modèle économique qui fonctionne plutôt bien. Enfin, pour l'instant, c'est en perte, mais la perspective de gain sera là si la bourse reste bien orientée avec de la volatilité. Parce que quand il y a de la volatilité, il y a des commentaires. Quand la bourse est plutôt bien orientée, eh bien, les personnes qui postent des messages ont tendance à gagner un peu plus d'argent qu'en temps de bourse calme. Donc, là, on a quand même... en fait, en tout cas, le timing de l'introduction en bourse, il est fantastique. Ils l'ont fait au niveau à un niveau record où on se pose des questions sur est-ce qu'il y aura ou pas des baisses de taux des banques centrales. La Fed, la première en juin, donc au niveau timing en termes de communication financière, c'est ce qu'il faut faire. En tant qu'investisseur, justement, il ne faut pas tomber dans le piège de la communication financière et il faut attendre.
Antoine, depuis Euronext, on le dit, hein, Reddit, société qui perd de l'argent, mais qui est déjà valorisée 8 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous écoutent et qui se diraient, est-ce que j'y vais ?
Ce qui est intéressant sur Reddit, c'est que bon, la bourse, elle voit le temps long. Et Reddit, bon, bah, vous connaissez, c'est quand même un réseau social. Alors, on parle des mêmes stocks, etc. Reddit, c'est aussi le terrain de jeu, des forums de discussion sur les jeux vidéo, de pas mal de streamers. Puis également de pas mal d'une espèce de petite faune de complotistes, de platistes, de supporters de Trump. On a l'impression qu'en achetant un petit peu de Reddit en ce moment, on achète un modèle économique qui est basé sur une forme d'hystérisation de l'opinion. On va dire les choses comme elles sont. Ça a fait les choux gras de Rupert Murdoch, ça a fait les choux gras d'énormément de manias des médias aux États-Unis. Il y a en vue une élection présidentielle américaine qui pourrait voir potentiellement le retour de Donald Trump. Est-ce que c'est pas le moment de jouer sur Reddit dans cette optique-là ? En tout cas, peut-être qu'énormément de placements qui ont été faits lors de l'introduction en bourse ont ça comme argument. Et c'est peut-être une thématique d'investissement intéressante si on regarde vraiment les choses objectivement du côté des États-Unis.
La thématique de l'hystérie, Antoine.
Oui, à court terme, c'est vrai que ça pourrait continuer d'augmenter. Hein. Il n'y a pas de raison que ça se replie. Effectivement, et aussi, la bourse oblige au moment d'être rentable. Et donc, le modèle économique de Reddit qui s'apparente un peu à un Facebook, par exemple, basé uniquement sur la publicité, mais il faudrait peut-être vendre de licences de data. C'est aussi une piste à explorer pour Reddit. Et donc, ça, le groupe pourrait être rentable dans les prochains trimestres.
Messieurs, un mot rapide de Banque Centrale quand même. C'était une semaine de décision, une semaine de communication. Une hausse, une baisse et trois statu quo. C'est le bilan qu'on peut faire des différentes décisions des banques centrales. Amérique, Japon, Angleterre, Australie. J'en oublie une.
Et Fed.
Et Fed, bien sûr, pardon. Antoine, ce qu'on doit retenir, là, pour les investisseurs particuliers et particulières qui nous écoutent, oui, de ces prises de décision.
Alors, si on commence par le Japon, qui est à contre-courant de toutes les autres banques centrales, elle a relevé ses taux pour la première fois depuis 2007. Elle sort des taux négatifs aussi. Et c'est vrai que la Banque du Japon donc, a une inflation finalement supérieure à son objectif. Et par conséquent, c'est assez logique que la BOJ, la Bank of Japan, augmente ses taux. Alors, elle l'a fait de manière très faible, hein, puisqu'on passe de moins 0,1 à 0. Entre 0 et 0,1. Donc vraiment, c'est donc dans l'épaisseur du trait. Par contre, et donc le yen a eu finalement a baissé, hein, puisque cette décision était largement attendue. Ce qui fait que le yen finalement s'est déprécié face aux autres devises. Après, ce qu'on peut dire, c'est que la Fed a maintenu, comme ce qui était anticipé, ses taux d'intérêt, mais elle a conforté finalement le marché à ce que la première baisse interviendra au mois de juin. Mm-hmm. Donc là, on a très probablement une première baisse pour le mois de juin. Et puis, on se peut dire, c'est que la Banque Nationale Suisse a baissé ses taux. C'est la première grande banque centrale à baisser ses taux, puisqu'elle a estimé que sa politique pour lutter contre l'inflation, pardon, était efficace. Et donc, elle a ouvert le bal, j'ai envie de dire, sur les baisses de taux.
Bon, François, on retient une chose, simplement, tout va bien se passer parce que la Fed va baisser ses taux.
Bah c'est ça, c'est exactement ça, Lorraine. On avait besoin de se rassurer, hein, parce qu'il y avait une petite musique qui montait que finalement, peut-être que la baisse des taux n'était pas si évidente que ça au niveau des États-Unis, voire de l'Européen, et que la première baisse des taux n'aurait peut-être pas forcément lieu en juin. Et après, on sait qu'on va rentrer dans une campagne électorale assez dense, peut-être complotiste, on va voir ce que fait Reddit. Et donc, on sait qu'il y a une énorme pression sur Jérôme Powell. Donc, on avait besoin de se rassurer qu'il y ait bien une baisse des taux. Et il est vrai que l'inflation fait quand même de la résistance. On le voit en Europe, on le voit aux États-Unis. Donc, la position des banquiers centraux aujourd'hui, elle n'est pas extrêmement confortable. Ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire que le marché de l'immobilier et le marché notamment du crédit immobilier, il ne faut pas s'attendre à voir les taux refluer massivement. Les taux vont rester quand même assez proche des niveaux actuels. Donc le marché immobilier va continuer d'être sous pression, en tout cas au niveau des prix. Et là, on va voir ce qui va se passer en juin. On voit que tout le monde donne un énorme rendez-vous sur le mois de juin. Ça va être probablement, en tout cas, il y aura deux mois décisifs dans l'année. Bien sûr, l'élection début novembre aux États-Unis et la première baisse des taux, Fed BCE en juin. Ce sont les deux plus grands rendez-vous, en tout cas, attendus et programmés pour les investisseurs.
Contre vents et marées, le marché continue de payer. Merci Jérôme, c'est ce que nous dira Franklin Pichard tout à l'heure de Kipling Finance, qui nous apportera son regard sur le marché et sur évidemment ce qu'il faut retenir de la semaine. Merci beaucoup messieurs, merci à tous les trois. Merci François Monnier des rédactions d'Investir, merci Antoine Frassoulier de l'équipe d'Itoro et merci Antoine de Pionex qu'on retrouve dans une petite heure avec des nouvelles surprenantes, vous verrez. Vous restez avec nous juste après la pub, une dose de dose. Il n'y a pas que les marchés qui montent, c'est vos impôts aussi qui vont peut-être monter. Nicolas Dose vous explique ça dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Votre dose quotidienne d'économie avec Nicolas Dose. Bonjour cher
bonjour,
Nicolas.
Bonjour.
Bon, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État.
Non.
Vous allez nous dire qu'il faut augmenter les impôts.
Non, il ne faut pas augmenter les impôts.
Ah bon, mais alors on fait comment?
Non, d'abord je vous dis pourquoi je considère qu'il ne faut pas augmenter les impôts. La première raison, c'est qu'on a le record des prélèvements obligatoires au monde. Ça suffit. Voilà. Deuxième chose, en 2017, s'il y a bien un marqueur positif dans le bilan du président de la République, c'est la réforme de la fiscalité. Soudainement, enfin, on met notre niveau de fiscalité sur les entreprises et sur le capital à des niveaux normaux, à peu près comparables au reste du monde. Troisième raison, parce que, là encore, s'il y a bien un marqueur positif, c'est qu'on a réussi à installer une forme de stabilité fiscale quand même. Et sortir de l'instabilité chronique, c'est pas le moment de recommencer.
Ouais.
Et non, parce que le choc fiscal, on a essayé. Ça commence à la fin du gouvernement Fillon, ça continue sous le gouvernement Hollande. Alors on vous explique que aller taper les entreprises et les riches, c'est pas grave, tu parles, c'est un appauvrissement généralisé, on le sait. Donc la rigueur par la fiscalité, non. Et alors je dis non, il faut pas augmenter les impôts. Et pourtant, je crains malheureusement que ça risque d'arriver. Pour une raison qui est l'équation suivante. On a besoin de dépenses absolument astronomiques devant nous. Transition verte, défense et vieillissement. On a une croissance qui faiblit. On est quand même sur un rythme du 1% par an jusqu'en 2027. C'est à peu près ça qui se dessine. Ensuite, on a une incapacité chronique à engager une réforme de l'État.
Bon, oui.
On a fait tous les comités théodules du monde. Depuis 1974, on n'a jamais signé un budget positif. tous les budgets ont été dans le rouge. Et nous sommes aujourd'hui le pays d'Europe qui a la plus grosse émission de dette publique par an. Donc il y a un moment, si vous voulez, avec cette équation-là, on peut imaginer la suite. Qui n'est pas forcément souhaitable, mais imaginez la suite.
La suite, ça veut dire quoi? Alors, plus d'impôts?
C'est-à-dire qu'en fait, si vous montez les prélèvements, ou s'il y a de l'argent que vous donniez et que vous ne donnez plus, le deuxième cas, ce n'est pas une hausse d'impôts, mais en fait, l'effet est assez proche. Et ça se ressemble pas mal. Alors, j'ai à peu près la conviction qu'on ne touchera pas aux cathédrales de la fiscalité. Personne ne va oser frontalement dire on met de la TVA, ou on met de la CSG, ou l'impôt sur le revenu ceci, ou l'impôt sur les sociétés cela. Pour des raisons à peu près évidentes, on ne va probablement pas oser toucher à la taxe sur les carburants. On relève tranquillement tous les ans la taxe sur les tabacs, sur les alcools. Mais sur les carburants, c'est devenu un peu inflammable. Mais voilà, si vous coupez dans les dépenses, si vous supprimez une niche fiscale, vous avez à la fin quelqu'un qui paie. Il y a forcément un euro qui ne sera pas dans une poche qui devrait y être ou qui y était. Je vous donne quelques exemples récents. Le bonus écolo pour la voiture électrique qui est passé de 5 000 à 4 000 euros. Ah, ce n'est pas une hausse d'impôt. Mais c'est bien de l'argent en moins quelque part pour quelqu'un. Le doublement de la franchise médicale. Je ne suis même pas sûr que ça rentre dans les prélèvements obligatoires précisément. Mais enfin, il y a un moment, il y a bien quelqu'un qui paie. Quand vous dites que pour utiliser le compte personnel de formation, il faudra maintenant payer un forfait de 100 euros. C'est pas une hausse d'impôt. Ben, il y a bien quelqu'un qui paie. De la même manière, quand vous décidez que vous allez réduire la niche fiscale sur le gazole non routier, c'est pas une hausse d'impôt, c'est une baisse de dépenses fiscales. Mais une baisse de dépenses fiscales, à la fin, ça finit par avoir à peu près les mêmes effets. Et je pense que cette petite liste-là, qui est pas exhaustive, c'est sans doute qu'un début.
Alors, vous allez peut-être nous lister quelques possibilités d'économie, puisque, je le rappelle, on est quand même censé tenir un budget.
Oui.
Et donc, sans doute, vous avez des idées. De là, on pourrait
aller sur... Alors, je ne vais pas vous donner d'idées particulières, je vais vous dire ce qui est dans les tuyaux. Parce que, d'ailleurs, Bruno Le Maire s'en est un peu affranchi. Donc, réforme de l'assurance chômage est dans les tuyaux, ça, il n'y a pas de problème. Il y a aussi l'idée, peut-être, de modifier le remboursement des affections longue durée.
Oui.
L'idée de modifier aussi le remboursement du transport sanitaire en taxi, qui est dans les tuyaux.
Rappelez-nous combien ça coûte, ça ?
5,7 milliards. Ça a considérablement augmenté. Il y a aussi l'idée d'indemniser peut-être différemment les arrêts maladie dans la fonction publique, pour essayer de s'attaquer au problème de l'absentéisme dans la fonction publique. Après, vous pouvez faire confiance aux esprits sado-fiscalistes, pour reprendre l'expression chère à Jean-Marc Daniel chez nos élus, pour trouver des bonnes idées. Vous avez par exemple une élue Renaissance qui a dit il faudrait taxer les compagnies pétrolières. Ou encore le rapporteur, le MoDem Jean-Paul Mattei plutôt, qui s'accroche à l'idée qu'il faut taxer les rachats d'actions. Après, il y a une catégorie qui peut se sentir à l'abri, probablement, c'est la catégorie des retraités. Parce qu'il a été question un temps, dans la bouche de Thomas Cazenave, de sous-indexer peut-être les pensions de retraite en 2025. Et ça a très 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 vite été écarté par le président de la République.
Bon, voilà. Quelques possibilités.
Mais il ne faut pas augmenter les impôts.
D'économies qui sont dans les tuyaux, ou en tout cas dans les cerveaux. Mais, a priori, la question « faut-il augmenter les impôts ?» est répondue par non.
Moi, je réponds non, mais je dis que ça n'est pas exclu. Vous savez, c'est très à la mode, ça n'est pas exclu.
C'est une possibilité. Cette chronique est à retrouver en replay, en podcast et sur YouTube si vous voulez participer à la réflexion. Vous donnez votre avis sur est-ce qu'il faut augmenter les impôts ou pas. Sur YouTube, Nicolas Dose, tous les jours pour la dose d'économie. Il est l'heure de s'occuper de votre portefeuille d'investissement, de regarder ce qu'il faut y mettre ou ne pas y mettre avec Franklin Pichard.
Tout pour investir, les marchés et vous.
Bonjour cher Franklin.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes directeur général chez Kipling Finance. On va parler de couteaux qui tombent et qu'il serait bien de ne pas attraper pendant la chute. Mais avant ça, bon, on va faire le bilan quand même d'une semaine époustouflante sur les marchés, nouveau record. Même chez nous ici, du côté du CAC 40. Racontez-nous.
Oui, nouveau record à Paris, mais partout, aux États-Unis encore hier soir, les marchés payent, les marchés continuent de payer. On a un environnement économique qui n'est pas flamboyant, hein. Attention, c'est vrai qu'on a toujours une inflation qui est tendue, on a des taux d'intérêt qui sont élevés, et la conséquence pour cela, c'est que effectivement, quand vous écoutez les entreprises, eh bien, on a des révisions, on a eu des warnings très importants cette semaine encore, et on a, malgré cela, les investisseurs qui sont focalisés sur les banquiers centraux, en l'occurrence Jérôme Powell, merci Jérôme, parce que on a eu une décision, enfin des propos, qui ont réouvert cette possibilité de voir la Fed baisser les taux trois fois avant la fin de l'année. Alors, pas maintenant, ça devait être en mars, ça devait être en juin, ça doit peut-être être en juin, ou pas. On verra un petit peu comment ça se passe. Mais ce que se disent les investisseurs aujourd'hui, c'est que finalement, après l'été, tout le monde va se bousculer pour baisser les taux. On a eu aussi l'ensemble des banquiers centraux, la Norvège, l'Angleterre, etc. La seule qui a baissé les taux hier, c'était la Suisse. Mais l'inflation est de 1,2%. Donc c'est pas compliqué dans ces conditions-là, ou 1,4. Et dans ces conditions-là, effectivement, il n'était pas compliqué de baisser ces taux de 25 points de base. Mais en dehors de ça, pour le moment, personne ne bouge. On a même eu Taïwan ou la Turquie qui, eux, remontent leur taux d'intérêt. Donc on voit que les politiques sont différentes selon la situation de chaque pays. Et en ce qui concerne États-Unis et Europe, et d'autres pays au-delà même de l'Europe, eh bien, on sent que ça va se bousculer. Et par conséquent, les investisseurs se disent, eh bien, finalement, même si on a un trou d'air avant l'été ou pendant l'été, eh bien, de toute façon, il y aura une reprise puissante des marchés, parce que quand les taux baisseront, l'économie qui est le point noir ou gris actuellement, eh bien, repartira fortement et il ne faudra pas rater le coche.
Voilà, l'effet magique du fait que la Fed a confirmé qu'elle va baisser ses taux. C'est pas encore toujours quand, mais voilà, cette parole incantatoire. Qu'est-ce que ça signifie côté valeur ? On va s'occuper de nos portefeuilles, Franklin. On va utiliser un adage qu'on utilise quasiment tous les jours dans cette émission. On ne ramasse pas un couteau qui tombe.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis très attentif à ce que nous disent nos clients, et quand nos clients voient des très fortes baisses, hein, on peut parler de Kering hier, Happy, Téléperformance ou Atos, ou Casino Rally par exemple aussi, les investisseurs particuliers sont toujours tentés de racheter, se dire c'est la bonne affaire. Le titre a baissé 33%, 76% pour EuroAPI, 76% pour Atos également depuis le mois de janvier. Et puis on frôle le 76% sur EuroAPI, c'est sur un an glissant. Et les investisseurs se disent, mais finalement, est-ce que c'est pas le moment de rentrer sur la valeur ? Atos idem, et Téléperformance aussi. Et finalement, ceux qui ont fait cette opération se sont un peu brûlés les ailes. Donc, il y a ce vieux dicton en bourse qui est de dire qu'on ne rattrape pas un couteau qui tombe au risque de se couper. Et aujourd'hui, il y a tellement de belles affaires avec de belles perspectives, il n'est pas nécessaire d'aller croire qu'on fait une opération avec un discount de 30 ou 70%. Il y a peut-être une autre explication, et le rebond n'est pas forcément pour demain sur ce type de valeur. Et en disant ça, à un moment on a cru au rebond de Téléperformance, on a imaginé que le pire était derrière nous, eh bien voilà, une fois encore, on aurait pu se tromper, on s'est trompé. Il faut pas toucher aux titres qui sont dans la tourmente et attendre d'être revenu vers des eaux plus calmes.
Couteau qui tombe ou valeur au tapis, comme le disait un de nos deux Antoine tout à l'heure.
C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, quand elles sont au tapis, il n'y a plus rien à attendre. Et qu'est-ce qu'une valeur au tapis ? Atos est au tapis, mais compte tenu...
C'est un penny stock.
Oui, alors on l'a vu avec Orpea, quand ça devient des penny stocks, il va y avoir un regroupement par mille. Et d'ailleurs, depuis que ça a été annoncé, depuis qu'on a annoncé le changement de nom sur Orpea, qui va s'appeler Nous en grec ancien, le titre a pris d'abord 15%, 25% avant-hier, il avait repris 10% hier matin, ça s'est un petit peu calmé dans la journée, mais on voit que effectivement la solution au penny stop, on fait des regroupements, ça ne règle pas tout, bien évidemment, mais une valeur au tapis est une valeur en danger, et il faut l'analyser promptement pour savoir ce qu'il en est réellement.
Il y a tellement de belles affaires ailleurs, vous nous dites. Est-ce que vous nous citez deux, trois valeurs que vous suivez attentivement et que vous allez suivre dans les prochains jours ?
Mais écoutez, bien sûr, il y a les valeurs qui progressent très très fortement depuis le début de l'année et qui sont dans la lignée de celles qui progressaient l'année dernière. Et là aussi, il faut aduler les stars et ne pas croire que l'expérience est terminée. Quand vous voyez ASML, Safran, Stellantis, Hermès, Renault, Accor, Airbus ou Schneider, qui sont tous des titres qui progressent de plus de 20% depuis le début de l'année. Et ça n'est pas illusoire, parce que certains de ces titres-là viennent de très très loin. D'autres s'inscrivent dans une hausse qui a presque 2 ans maintenant. Quand vous regardez Safran, Safran fait 99% sur 2 ans. Mais avec un marché de l'aéronautique qui continue de très bien se porter, on a véritablement, c'est plutôt malgré tout sur ces titres-là. Vous vous souvenez de cette fameuse expression que j'avais citée un jour à l'antenne, ce proverbe tibétain qui dit que quand on est en haut de la montagne, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer de monter. Eh bien voilà, on s'est raconté ça il y a 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus. Eh bien ça s'est pour le moment avéré, mais c'est au-delà de la formule. Il ne faut pas avoir de tabou, il ne faut pas avoir peur de racheter un titre plus cher qu'on ne l'a vendu. Ça c'est une décision contre nature pour un gérant de vendre à 100 et de se dire à 120 il faut que je la rachète. Eh bien pourtant oui, il faut le faire. Nvidia vaut beaucoup moins cher qu'il y a un an. Le titre a progressé de 240%, mais la croissance attendue est de 450%. Donc le titre finalement se paye moins cher que l'année dernière. Donc ceux qui ont pris leurs bénéfices sur Nvidia à une époque peuvent se dire, même au niveau actuel, finalement je la rachèterai moins cher que le cours auquel je l'ai vendu. Donc voilà, il y a toute une psychologie de marché et où pour le moment, les investisseurs sont ancrés dans cette conviction que les banquiers centraux vont agir rapidement ou pas, peut-être avant 2024. J'avais même imaginé et entendu cette petite musique que commence à dire, alors certains en off parce que leur maison, ce n'est pas la parole officielle de leur maison, mais certains disaient finalement, s'il n'y avait pas de baisse des taux en 2024, si l'inflation restait quand même soutenue, si la croissance était suffisante, est-ce qu'il faut vraiment se tirer une balle dans le pied et prendre le risque de voir l'inflation repartir? Donc pour le moment, et c'est pas la première fois que ça se produit, on a souvent vu le marché qui réagissait très favorablement dès que Jérôme Powell ou Christine Lagarde tenaient des propos plutôt rassurants et optimistes. Et puis, un Guéluron de la Banque Centrale Américaine va nous dire dans 8 jours ou 15 jours que finalement il n'en est pas question et on peut avoir une petite correction, mais rien de grave en tout cas.
Voilà, un peu comme Vanguard, le plus gros provider d'ETF qui voilà, verbalise déjà le fait qu'eux, ils ne croient pas à une baisse de taux en 2024. On verra qui a raison finalement au mois de janvier 2025. Merci Franklin Pichard pour ce regard sur cette semaine boursière contre vents et marées, le marché continue de payer. Le mot de la fin, ce sera merci Jérôme. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. On va parler, tiens, on va continuer à parler de marché. On va parler des événements pricés. Vous savez, cet anglicisme pour dire que voilà, quand il y a une nouvelle information, mais qu'elle a déjà été intégrée par les investisseurs et dans les cours de la bourse, que faut-il en faire? On réfléchit à ça, on vous coach. C'est Marc-Antoine Raffard du Café de la Bourse qui se connecte pour vous éclairer, pour vous coacher d'ici quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
Notre coach tombe à pic puisque nous allons définir et essayer de comprendre ce que c'est qu'un événement pricé par le marché. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour Lorraine, comment allez-vous?
Je vais bien, merci. Marc-Antoine Raffard, expert bourse et puis membre de l'équipe du Café de la Bourse pour nous coacher, nous faire un petit peu de pédagogie autour de cet anglicisme pricé. Qu'est-ce que c'est qu'un événement pricé par un marché, Antoine, Marc-Antoine, et expliquez-nous pourquoi ça nous concerne en tant qu'investisseur particulier.
Alors, je ne saurais pas traduire ce terme anglophone. C'est pour ça qu'on utilise pricé. Bon, désolé pour les adeptes de la francophonie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bourse, il y a un certain nombre de facteurs qui vont influencer les cours des indices, les cours des actions. Pour les actions, on va plus regarder les résultats de l'entreprise. Pour les indices, on va regarder aussi la macroéconomie, le taux de chômage, l'inflation, les taux d'intérêt. On en a parlé juste avant. Donc tous ces facteurs qui impactent les marchés. Et quand on a un petit peu appris comment fonctionnent les mécaniques des marchés financiers, eh ben on comprend qu'une hausse des taux, c'est pas bon pour les valeurs tech. Une baisse des taux, c'est plutôt profitable pour les indices, par exemple américains. Et c'est au cœur de l'actualité. En ce moment, on en parle beaucoup. Si c'était si facile, je pense que ce serait merveilleux. Malheureusement, c'est pas aussi facile parce que on est tous là à attendre derrière nos écrans ou dans nos salles de trading ce qui pourrait se passer dans les prochains mois au niveau de la Fed ou même on parlera aussi du halving sur le Bitcoin qui est très attendu au mois d'avril. Donc tout ça, ce serait trop facile s'il suffisait juste d'attendre que le chiffre soit annoncé pour que ça définisse la tendance à venir des marchés. Ça serait trop facile. Et tout le monde est derrière ses écrans, tout le monde essaye d'anticiper. Et c'est ce phénomène d'anticipation qui fait que parfois, finalement, ça se passe pas comme prévu, puisque si un événement est très attendu et qu'il y a une forte probabilité qu'il se réalise, finalement, il va être ce qu'on appelle pricé par le marché, c'est-à-dire que l'information, finalement, elle est déjà intégrée dans les cours de bourse présente pour un événement qui est futur. Est-ce qu'il risque de se passer dans ce cas-là? C'est que quand l'annonce est faite, finalement, il n'y a pas d'effet de surprise, tout s'est passé comme attendu, et finalement, on a même parfois l'effet inverse. Alors, soit on n'a pas d'effet du tout sur le marché, soit on peut même avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que tous ceux qui ont spéculé en amont, finalement, quand l'événement tombe, finalement, ils prennent leurs bénéfices, ils disent, c'est bon, le scénario s'est réalisé, et du coup, ça peut créer une petite correction. Donc, en fait, c'est ça, un événement, quand il est pricé, c'est qu'il n'y a plus de surprise sur les marchés.
Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de FOMO, qui est un autre concept qu'on a déjà évoqué avec vous. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples récents d'événements déjà pricés par le marché? Par exemple, est-ce que la décision de la Fed, ou en tout cas la prise de parole de Jérôme Powell d'hier, était déjà pricée?
Alors, c'est un excellent exemple, tout à fait d'actualité, assez difficile à trader parce qu'il y a énormément d'attentes dessus. Donc, plus un événement, plus il est attendu, plus il y a de stress, plus il y a de tension, plus il crée de volatilité, plus il est difficile à trader et à anticiper. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que depuis la fin de l'année 2023, depuis novembre-décembre, il y avait une grosse anticipation de baisse des taux parce que pourquoi les taux ont monté? Les taux ont monté pour lutter contre l'inflation. Mais il se trouve que en fin d'année 2023, l'inflation, elle a quand même bien baissé. Elle est revenue à des niveaux qui sont proches des niveaux cibles de la Fed. Donc, il y a eu commencé à avoir ces anticipations de se dire, l'inflation baisse potentiellement, à mon avis, pourrait y avoir une baisse des taux prochainement. Ouais. Et jusqu'en mi-février, jusqu'à fin février, on va dire que cette anticipation était valide. Malheureusement, début mars, les chiffres de l'inflation sont tombés aux États-Unis et elle était légèrement en hausse. Donc là, ça a été mouvement de panique. On s'est dit, oula, attention, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement, on remet pas tout en cause? Ce qui a créé un petit trou d'air sur le Nasdaq, sur lequel je me suis fait avoir, en plus, au passage. Donc j'ai suivi de très près le truc parce que j'étais en position. Et au final, Jérôme Powell, lui a annoncé que non, quoi qu'il en soit, il garde son plan et il garde l'objectif de faire 3 baisses des taux, je crois, au cours de l'année 2024 et que rien ne changerait. Maintenant, attention, c'est un discours. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça pourrait encore changer. Si l'inflation augmente encore, ça pourrait changer. Et ce n'est pas rare que les banquiers s'en trop, les gouverneurs ou les comités disent blanc et puis font noir, ou chaud ou froid. Ils jouent un peu avec ça aussi.
Voilà,
ou gris.
Un événement qui est très attendu et dont on parle régulièrement sur les sujets, dans le cadre des sujets crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle le halving du Bitcoin. Amaury de Tonquédec nous en parle régulièrement, il nous fait le décompte. C'est un événement qui va avoir lieu au mois d'avril, dans quelques semaines. Expliquez-nous comment on price ou on ne price pas ce qui pourrait se passer au moment du halving dans le cours du Bitcoin et évidemment de toutes les crypto-monnaies qui sont en satellite autour du Bitcoin.
Alors, le halving, c'est un événement très important sur les cryptos. Juste en rappel, c'est la récompense de minage qui diminue de moitié. En l'occurrence, on va passer de 6,25 bitcoins par bloc à 3,125 bitcoins par bloc produit. C'est un événement très attendu parce que jusqu'à présent, à chaque fois que ça a été à chaque fois que ça s'est produit, s'en est suivi une forte hausse du Bitcoin. Ce qu'il faut prendre en compte, et ça c'était pas forcément vrai au dernier halving, parce que les halvings c'est tous les 2 ans. Donc il y a 2 ans, on n'était pas du tout dans le même contexte de marché. Aujourd'hui, on a les ETF Bitcoin qui sont arrivés aux États-Unis. On a donc du coup beaucoup plus d'institutionnels qui sont présents, et les institutionnels, c'est souvent eux justement qui ont tendance à essayer d'anticiper le plus possible. Donc, c'est eux qui vont créer les retails. Alors, Bien sûr, il y a différents niveaux. Il y a les débutants, il y a les intermédiaires, il y a les experts en investisseurs particuliers ou en traders particuliers. Mais en général, c'est vrai que les débutants, ils vont moins faire attention à ces phénomènes de pricing, d'anticipation. Ils vont plus prendre les événements au jour le jour. Donc, jusqu'à présent, c'est vrai que quand le halving était annoncé, oh, paf, le marché est monté. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus institutionnel sur le Bitcoin. Et c'est un événement qui laisse pas la place au doute. C'est-à-dire que, comme on parlait tout à l'heure des taux de la Fed, il y a encore toute une incertitude autour des taux de la Fed. Donc, il y a encore potentiellement un effet de surprise qui peut arriver. Sur le Bitcoin, il n'y a pas d'effet de surprise qui puisse arriver, sauf peut-être la date qui évolue un tout petit peu. Elle n'est pas très précise, la date, parce qu'elle évolue en fonction du nombre de blocs qui sont minés.
Oui.
Donc, s'il y a plus ou moins de transactions, elle peut avancer ou reculer, la date. Mmh. Donc, mais par contre, on sait exactement ce qui va se passer. Il n'y a pas de surprise. Donc, mon anticipation, c'est que tous ceux qui sont institutionnels, donc ceux qui ont des gros capitaux, ce qu'on appelle les baleines sur les cryptos ou les gros investisseurs institutionnels qui interviennent à travers les ETF, eux, ils vont pas se faire prendre au jeu de la surprise au moment de l'annonce. Par contre, il pourrait y avoir un tout petit peu du FOMO, on en reparle, des particuliers retardataires qui se disent « Oh zut, le halving, je vais investir ». Mais à mon avis, ça va pas créer non plus un gros mouvement, le vrai, ce qu'on appelle market mover, donc le vrai phénomène impactant sur les cryptos, à mon avis, c'est plus les ETF et l'arrivée de ces ETF sur le marché américain.
Bon, impossible de faire une chronique sur ce qu'on appelle un événement pricé sans utiliser cet adage boursier. On achète la rumeur et on vend la nouvelle. Expliquez-nous, rappelez, décryptez-nous pour ceux qui nous écoutent ce que ça signifie.
Et c'est un petit peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que tant qu'on est dans l'incertitude, il y a de l'argent à faire. Parce qu'il faut bien comprendre que sur les marchés financiers, alors je parle de spéculation court terme, on n'est pas du tout dans le cadre de ceux qui achètent des ETF à long terme et qui laissent courir leur capital et grossir leur capital. Là, on est dans la spéculation court terme. Donc, si vous voulez, tant qu'il y a de l'incertitude, il y a de l'argent à faire. À partir du moment où un événement est certain, il n'y a plus d'argent à faire. Pourquoi ? Parce que ce qui rémunère quand on fait de la spéculation à court terme, c'est le risque. S'il n'y a pas de risque, donc si un événement est certain, qu'il n'y a pas de doute possible, il n'y a pas de risque. Donc du coup, il n'y a théoriquement pas d'argent à faire. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, il faut acheter la rumeur. Donc tant qu'il y a de l'incertitude sur les taux, tant qu'il y a de l'incertitude sur l'inflation, on ne sait pas si l'inflation va encore monter ou pas, on peut se positionner. Alors après, bon, faut être un expert ou alors s'appuyer sur les analyses d'experts pour déterminer est-ce que je pense que l'inflation va monter ou baisser, est-ce que je pense que les taux après ça vont monter ou baisser. Donc ça, faut c'est le travail d'analyse. Et sur cette base-là, après, vous faites votre, entre guillemets, j'ai pas envie de dire utiliser ce terme-là, mais votre pari, mais c'est pas, voilà, votre anticipation, on va dire plutôt, et vous achetez la rumeur. Donc vous dites, bon, moi, je pense qu'il va y avoir une baisse des taux ou une hausse des taux. Quand les faits d'annonce est fait, quand l'annonce est faite, à ce moment-là, vous prenez vos gains puisque le marché aura déjà au fil du temps anticipé ce qui se produira.
Voilà, l'idée c'est de bien comprendre les dynamiques sous-jacentes d'un événement déjà pricé pour finalement en fait prendre des décisions non pas sur des faits et des infos qui sont déjà là, mais des potentiels faits, des potentielles informations qui tomberaient prochainement. Alors,
On a la chance d'avoir les informations aujourd'hui en temps réel grâce à des médias comme vous. Il faut rappeler qu'il y a quelques temps, c'était dans les journaux. Donc, c'était encore pire. On recevait le journal le matin et on avait la news de la veille. Donc, c'était encore pire. Mais même aujourd'hui, même avec l'actualité qu'on a et en temps réel, il faut quand même toujours avoir un temps d'avance si on veut s'en sortir en bourse.
Merci beaucoup, Marc-Antoine Raffard de l'équipe du Café de la Bourse pour ce décryptage, pour ce coaching, un événement pricé. Vous aussi, vous avez des besoins de pédagogie sur des termes de la finance, sur des expressions ou tout simplement sur des stratégies d'investissement, vous nous écrivez une seule adresse directe à bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn, je vous lis en message perso, vous pouvez m'écrire aussi. Puis on mobilise les meilleurs experts de France et d'ailleurs pour pouvoir répondre à vos interrogations et vous aider à mieux gérer vos finances personnelles, à mieux envisager votre vie d'investisseur ou d'investisseuse. On marque une petite pub et après l'info éco avec Stéphanie Collot, le point sur le CAC 40 avec Antoine et puis une demi-heure d'immobilier pour répondre à toutes vos questions et vos interrogations. Et puis, on finira également par la semaine en crypto, le point sur toutes les actualités Web3 et crypto-monnaie pour finir l'émission. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs, des meilleurs épargnants. On est en direct à la radio, à la télé, de 10h à midi tous les jours sur BFM Business, mais aussi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en France et au-delà en podcast. Bonjour à vous tous qui nous écoutez depuis l'étranger. Le programme de l'heure à venir en tout pour investir, c'est d'abord l'immobilier. Le vendredi, c'est une demi-heure qui réunit les meilleurs experts, les meilleures expertes en l'occurrence aujourd'hui. On sera avec Marie-Cœur de Roy et on sera avec la directrice générale de la CAFPI, puis notre consoeur de Radio Immo pour parler eh bien, des conditions de crédit, des réformes envisagées sur le crédit immobilier. Puis on discutera aussi des mesures du gouvernement pour le logement. Vous avez des questions, vous nous les adressez direct à bfmbusiness.fr ou encore en message privé sur LinkedIn. Je vous lis comme Paris et Karim et Pascal qui m'ont écrit. On fera le point sur les cryptos. La reine des crypto-monnaies a perdu plus de 15% de sa valeur en une semaine. On parle évidemment du Bitcoin. Après avoir atteint, vous le savez, un sommet historique, est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est Stéphane Ifra de CoinHouse qui viendra peut-être vous rassurer. Pour l'heure à 11h05, on part rejoindre Antoine à Euronext pour faire le point sur la séance en cours, côté CAC 40. Antoine, le marché qui tense quelque chose à l'approche de l'heure du déjeuner, mais bon, là on est toujours dans une logique de baisse, de toute petite baisse.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu instable depuis ce matin. On était sur une baisse un petit peu plus franche à l'ouverture et là, on est revenu quasiment à l'équilibre, -0,04%, 8176 points. Il faut dire que ça commence à s'améliorer du côté des futurs américains et ça explique aussi ce léger retournement de marché. Le DAX à Francfort, lui, il est dans le vert depuis un petit moment et il poursuit sur sa lancée, +0,09%. L'Eurostock 50, toujours en retard, -0,32%. Un marché qui a du mal à trouver une orientation après une semaine extrêmement riche en matière de décision de politique monétaire et surtout de commentaires en matière de dynamique monétaire. C'est vrai qu'on a un peu du mal à digérer tout ça. Ça provoque quelques déséquilibres du côté des taux qui ont un petit peu de mal à corriger, notamment sur l'obligataire, sur les monnaies aussi, où on a un euro-dollar qui a bien du mal à retrouver du souffle après être descendu sous 1,09. Donc du coup, un petit peu d'instabilité, quelques arbitrages. À noter à Paris quand même qu'on a un très net retour autour de tous les dossiers en difficulté. Il y a un certain retour de l'appétit pour le risque de la part des investisseurs sur des dossiers qui ont été franchement mal traité ces dernières semaines, notamment Téléperformance qui signe la plus forte hausse du CAC à +3%, 91,10€. On a EuroAPI en tête des progressions du SBF 120, et oui, +7,9%, 2,59€. On a Atos aussi, +5,30€, 1,78€. Nexity aussi, +2,57€, on remonte à 9,17€. Covivio signe une belle hausse aussi, +3,2% à 46,16€. Le reste des valeurs en hausse, c'est plutôt des valeurs défensives. On a Carrefour qui gagne 1,7%, 16,19€, ou Edenred +1,7€. 4%, 49,78 à la baisse. Cherchez pas, toutes les valeurs de croissance sont en bas de tableau. LVMH en premier lieu, plus forte baisse du CAC à -1,75€, 833,10€. On a la techno aussi avec STMicro qui perd 1,4% à 39,95€, ou encore Kering, -1,3%, 366,45€. Le CAC donc quasiment à l'équilibre, -0,07%, 8173 points, et l'euro 1,0817. Donc Lorraine.
Voilà, séance à suivre du côté du CAC 40, quasi stable, mais de l'appétit pour le risque. C'est l'heure de votre histoire, Antoine.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Alors Antoine, évidemment, pour préparer vos chroniques, vous faites votre travail, vous décortiquez moult documents et notamment des chiffres hebdo envoyés par Merrill Lynch qui réserve quelques surprises cette semaine concernant leur allocation d'actifs. Racontez-nous.
Oh. Ouais, c'est une sacrée surprise, hein. En effet, c'est les chiffres hebdomadaires de Bank of America, Merrill Lynch, en matière d'allocation d'actifs, de manière générale, sur les actifs gérés par les gérants américains. Donc ça, c'est quand même regardé de près, parce que on a un signal. Alors pour la petite histoire, ces chiffres courent du mercredi au mercredi, donc ils ont arrêté les compteurs juste avant que la Fed ne rende sa décision sur les taux et fasse ses commentaires. Et puis c'était la veille de la décision de la Banque de Suisse de finalement abaisser ses taux, et de la Banque d'Angleterre également de laisser ses taux inchangés, mais on voit qu'il n'est absolument plus question d'une orientation haussière des taux maintenant, dans le décompte des voix des gouverneurs. Alors, du côté des chiffres de sortie de capitaux, très intéressant. On sent que le cash est en train de... Vous savez, c'est le fameux cash on the sidelines dont on parle souvent. C'est ces monceaux de cash que les investisseurs détiennent et qui sont prêts à investir dans les actions, dans les obligations, etc. Ben, il est en train de sortir peu à peu. On a 61,2 milliards de dollars de sortie de capitaux de la catégorie cash, hein, marché monétaire. Et c'est la plus forte somme depuis octobre 2023, hein, selon Merrill Lynch. Alors, on se dit, ben, tant mieux, tout bénef pour les actions. On va aller chercher du rendement. Ben, manque de bol, c'est pas du tout sur les actions que ça s'est passé, vu que les actions, elles subissent une décollecte de 21,2 milliards de dollars. Bon, on se dit, ben, qu'est-ce que font les investisseurs? Ils sont peut-être mis au crypto. Ben non, là aussi, sortie de capitaux nets, 100 millions de dollars. On pourrait se dire également qu'ils sont passés à d'autres classes d'actifs et qu'ils ont essayé de prendre un peu de risque. Ben pas du tout, parce que si on regarde les capitaux entrants, là on se rend compte qu'ils ont investi 5,4 milliards de dollars dans l'obligataire, dans les taux. Et alors le plus étonnant, 1,1 milliard de dollars qui a été investi dans l'or. L'or dont on a parlé toute cette semaine qui atteint des plus hauts historiques. Et c'est le plus gros montant depuis mai 2023. C'est vous dire si le relativisme monétaire du moment et l'impact que ça peut avoir sur la crédibilité des monnaies a un impact positif autour de l'or, si bien que la première urgence des investisseurs dans ces conditions, c'est de s'assurer un backup, comme on dit, et de vraiment refaire le plein de valeurs sûres. Ça accrédite cette théorie de Goldman Sachs. En début de semaine, on en avait parlé avec Lilia Pétavin, leur stratégiste action. Ben oui, il y a un temps d'arrêt là en ce moment, il y a un moment suspendu autour des actions. Il va peut-être falloir arbitrer, se diversifier un petit peu, mais en attendant la fin de ces arbitrages, la première chose qu'on va faire, on va chercher des taux et on va chercher de l'or, preuve que le marché a vraiment encore et toujours besoin de ces valeurs refuges, même si les actions restent porteuses.
Voilà les surprises de l'allocation d'actifs d'après Merrill Lynch. Merci pour votre lecture, Antoine. Antoine Larigaudry depuis Euronext tout au long de l'émission. Je vous précise que cette séquence est à retrouver en podcast et en replay. Et que pour continuer à suivre l'actualité boursière, ça se passe tous les jours dans BFM Bourse, 15h30, 18h, avec Stéphane Pedradi aux manettes et toute l'équipe de BFM Bourse. Il est l'heure de parler immobilier. C'est une demi-heure de programme dédié au logement, à l'habitat, à l'investissement locatif, au crédit, qui vous attend avec nos expertes. À tout de suite.
Tout pour investir, les experts de l'IMO.
Ce sont les expertes aujourd'hui. Marie Cœur de Roy nous a rejoint. Bonjour Marie.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Nous sommes également avec Caroline Arnoux, la directrice générale de CAFPI. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Et puis Bérénice Deville, notre consoeur, est avec nous, rédactrice en chef de Radio IMO.
Bonjour.
Vous êtes avec nous, mesdames, pour faire un tour d'horizon de tous les sujets immobiliers. Oui, c'est possible en une demi-heure sur BFM Business. Nous sommes également avec nos auditeurs. Vous nous écrivez, vous nous suivez en direct, vous malpaguez sur LinkedIn. Je lis vos messages à Marie et à l'équipe qui peut y répondre, également à l'adresse directe @bfmbusiness.fr. Et on va commencer par les conditions de crédit qui s'améliorent un petit peu.
Ouais, il faut qu'on démarre par là. En plus, on a Caroline, donc on va évidemment l'embêter là-dessus. Caroline, on entend dire depuis le début de l'année, ça va mieux, les taux baissent, les banques sont plus généreuses. Concrètement, on en est où sur les conditions d'emprunt? Là, on est quoi? Mi-mars, fin mars, on en est où?
On est bien.
Bon, bah, voilà, c'était une réponse brève, hein, mais
on est bien, on est en dessous de 4%, qui c'est quand même assez incroyable.
Inespéré.
On a une vraie baisse des taux depuis le début de janvier. Donc là, sur 20 ans, on est à 3,75. On atteint pour des très beaux dossiers même 3,50.
Ah ouais.
Donc on est vraiment sur un bon niveau de taux et sur des taux qui s'y sont stabilisés. Hein. Je pense qu'aussi les banques ont de l'appétit pour le crédit. Elles veulent aller chercher les nouveaux clients. On est sur des bons niveaux de taux actuellement.
Et au-delà des taux, Caroline, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a de la souplesse aussi au niveau des banques? C'est-à-dire que bien sûr la baisse des taux peut être décisif pour obtenir un crédit immobilier, mais est-ce que, en termes d'apport, d'éléments de ce point de vue-là, est-ce qu'on a l'impression qu'elles sont quand même plus souples aussi?
Oui, il y a beaucoup de souplesse. On revoit des conditions qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps, des financements à 110%. On a vu des banques aussi qui proposaient des taux à 30 ans. Des crédits à 30 ans. Donc hors critères HSR.
C'est ce que j'allais dire, en dépit des règles.
Exactement, exactement. Donc là, on a vraiment, de bonnes conditions pour emprunter aujourd'hui.
Et boule de cristal oblige. C'est quoi votre perspective, Caroline, pour fin d'année, avec la perspective d'une baisse de taux de la BCE aussi? Est-ce que ça peut s'accélérer? Et où est-ce qu'on pourrait atterrir en termes de taux d'intérêt en fin d'année, selon vous?
Oui, ça peut s'accélérer. On a vu la Fed, cette semaine, ne pas bouger ses taux, mais pour autant annoncer 3 baisses de taux sur 2024. Donc 3 fois 0,25, ce qui ferait 0,75. Donc la BCE pourrait suivre. On a eu des annonces et du gouvernement et du gouverneur de la Banque de France qui nous dit que c'est très probable qu'au mois de juin, on va avoir une baisse des taux de la BCE. Donc les taux à fin d'année pourraient s'approcher des 3%.
Ouais, Bérénice, je vous regarde par rapport à ce que dit Caroline. C'est vrai que nous, en tant que journalistes, on était tout le temps là, l'année dernière, à dire ça bloque, ça bloque, ça bloque. Là, on voit effectivement que ça va un petit peu mieux. Pour autant, les règles n'ont officiellement pas vraiment changé. C'est un sujet, ça, quand même, les règles du HCSF, donc le Haut Conseil pour la Stabilité Financière. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire de ce côté-là pour améliorer encore les choses, ou est-ce que finalement l'attitude des banques seules suffit?
Alors, justement, on va en parler tout à l'heure. Il y a le député, Lionel Kos, qui a fait une proposition de loi à ce sujet. Après, vous l'avez dit, il y a 20% d'exception, enfin, il y a une possibilité de 20% d'exception fixée par le HSF. C'est vrai que les banques font appel à cette règle, on va dire, pour déroger.
Difficilement.
Ouais.
Difficilement. Elles ont du mal à la piloter. Donc, cette règle, elle est, elle est bien, mais c'est très difficile à piloter pour les banques de savoir où elles en sont par rapport à leur niveau de dérogation. Après. Je ne sais pas si on reviendra au niveau du.
Allons-y maintenant. Allons-y maintenant, surtout sur Lionel Kos, là, parce que Bérénice l'a abordé.
Qui est ce député? Alors, c'est le député des Landes, c'est un ancien maire, et c'est aussi le président du CNH, dans le Conseil National de l'Habitat, donc qui travaille constamment sur, justement, cette crise du logement, et ils font plein de propositions. Et donc, une des propositions de loi qu'il vient de remettre, c'est concernant, justement, le HCSF, donc le Haut Conseil de Stabilité Financière.
Et qu'est-ce qu'il dit, Lionel Kos? Parce que, alors, je crois qu'il veut, mettre au sein du HCSF des parlementaires. Ok, une fois qu'on a dit ça, super. Mais derrière, il y a un autre élément quand même qui pourrait peut-être avoir un impact.
Voilà, il veut supprimer la fameuse règle des 35% parce qu'il dit que ça, c'était très...
35% d'endettement.
D'endettement, voilà. C'était efficace quand les taux étaient bas, mais maintenant que les taux sont remontés, eh bien, ça porte préjudice à de nombreux ménages. Alors ça, est-ce que... C'est...
Alors, il veut pas vraiment il veut pas le supprimer, mais qu'on peut dépasser les 35%, ouais. Mais il faudra montrer qu'il n'y a pas de risque de surendettement. Donc,
parce qu'en fait, le sujet, c'est le reste à vivre, Caroline.
Oui, c'est
35% d'endettement, on le répète assez régulièrement, 35% d'endettement quand on gagne 10 000 euros par mois ou quand on en gagne 1 500, c'est pas exactement pareil.
Oui, oui, non, mais on voit bien que c'est évidemment, en plus, on a vu que le ministre de l'économie était favorable à cette proposition, donc c'est intéressant. Tout le monde sait qu'il faut le faire bouger, mais il ne faut pas encore rentrer dans une nouvelle usine à gaz.
Alors, le gouverneur de la Banque de France n'est pas favorable, en revanche. Il fait partie du HCSF.
Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais globalement, sur le HCSF, on le voit bien, c'est quand même quelque chose qui a été mis en place de façon complètement contracyclique en 2022. Les banques n'ont jamais favorisé le surendettement. Sur les 20% de Français qui ont un crédit, seulement 5% sont surendettés.
Ouais, ouais.
Sont dans les surendettements. Donc, ce n'est pas vraiment le crédit immobilier qui est vecteur de surendettement. Nous, en tant que courtier, mais aussi en tant que présidente de l'association des courtiers, on milite vraiment pour un moratoire, vraiment une suppression des normes HSF. On prendrait zéro risque à dire on fait une pause de 6 mois, d'un an, et on voit ce qui se passe.
Et puis, on l'a vu, Caroline, Bérénice, on l'a vu quand même l'année dernière, c'est-à-dire quand le marché se retournait, les banques n'ont pas pris de risques inconsidérés. Et justement, quand elles considèrent que ce n'est pas le moment de prêter, on l'a bien vu parfois au détriment de bon nombre d'acheteurs qui étaient pourtant solvables, elles n'ont pas prêté. Donc, comme vous le disiez, Caroline, en termes de surendettement, c'est pas le crédit immobilier, c'est bien les crédits conso qui pénalisent.
Oui, parce qu'il y a ces règles. Parce que quand on prend le discours de la Banque de France, justement, il n'y a pas de surendettement. Parce qu'il y a ces... Enfin, c'est leur discours.
Bien sûr, c'est leur discours, on est d'accord, Bérénice. Mais c'est vrai, quand on regarde avant que ces normes deviennent contraignantes, c'était d'ores et déjà le cas. Donc les banques, enfin, et c'est, je pense, pour ça qu'on n'a pas vécu ce qu'ont vécu les États-Unis en 2008. Mais bon, justement, on a une petite question d'auditeur qui va s'adresser, je pense, directement à Caroline.
On a une question de Franck qui nous suit et qu'on salue. Qui est primo-accès
précédent. Il a une interrogation sur le choix du mode de financement de son acquisition qu'il prépare activement dans le neuf, un logement neuf en cours de construction. Il a trouvé un bien, déjà bravo. Donc il cherche comment le financer. Il se demande si c'est plus avantageux pour lui de passer par un courtier en prêt IMO ou bien de faire le tour des banques, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Franck ?
À votre avis.
Que va nous dire Caroline du courtier CAFPI ?
Non, en vrai, le financement du neuf, on sait qu'il y a des aides, on sait qu'il y a des systèmes. Donc, je pense que déjà, être conseillé, être accompagné, c'est extrêmement important et un courtier vous apportera ce conseil. Ensuite, en ce moment, on est dans une phase de conquête pour les banques. Elles veulent aller chercher des clients, donc elles sont prêtes à décoter sur leur barème. Donc nous, on reçoit des barèmes bancaires où vous avez parfois un point d'écart entre une banque et l'autre selon les types de
produits. Il y a une vraie concurrence, Caroline.
Donc il y a les, non mais il y a les barèmes, il y a le prix catalogue, et il y a ensuite ce que la banque finalement, par rapport à la typologie de vos clients, elle vous accorde. Donc effectivement, passer par un courtier, ça va permettre d'aller voir tout le panel des banques, donc aller plus vite, être conseillé sur sur les aides, hein, pour les primo-accédants et pour le neuf, comparer les offres, négocier tout ce qu'il y a dans le crédit aussi, l'assurance emprunteur. Et on l'a vu aussi, les dérogations des banques qui dérogent aux critères HCSF, bah, selon les périodes, selon qu'elles ont octroyé trop ou pas assez de dérogations.
Ouais. Il y a des banques d'un coup d'un seul qui vont passer de l'autre côté, et ça, vous courtiez, vous le savez. Bérénice ?
Oui, alors moi je suis peut-être un peu plus objective parce que je défends pas les courtiers, mais c'est vrai que comme vous l'avez dit, il y a de grosses différences entre les banques, donc le courtier va aller chercher justement le meilleur taux, et puis c'est un gain de temps aussi, il faut le dire. C'est le courtier qui fait tout le travail, on n'a pas à faire le tour des banques, ça prend quand même du temps, donc c'est vrai que c'est une période qui est plutôt
Parce que le sujet, Bérénice, c'est peut-être que effectivement bon, Caroline est courtière et c'est normal qu'elle prêche pour sa paroisse. Oui. Mais en l'occurrence, quand on est sur un marché compliqué, c'est précisément là,
là où on a
priori,
besoin d'un courtier.
C'est ça, hein, parce que quand on était à des taux à 1% ou limite, vous passiez le pas de la banque, vous aviez votre crédit, c'est fini ça. Hein,
là,
on est d'accord, Caroline. Hein, les conditions s'améliorent, mais c'est pas la fin. Bon.
Et puis vous avez le pouvoir de négociation aussi, vu que vous apportez un grand nombre de dossiers, vous avez un pouvoir de négociation que chaque particulier n'a pas forcément quand on n'a pas des profils, quand on a des profils normaux entre guillemets.
Oui. Et puis parfois savoir combien emprunter. Est-ce que je mets mon épargne en apport ? Est-ce que j'emprunte plus ? Donc, est-ce que j'allonge la durée ? Donc, il y a toute cette technicité vraiment qui est hyper importante.
On va parler aussi des réformes, des petites mesures. Et en plus, comme on parle du neuf, je trouve que puisque Franck nous écrit pour l'achat d'un logement neuf, il y a deux, trois choses qui ont été annoncées ces derniers temps.
Encore.
Un petit peu de simplification, peut-être. Vous voulez nous raconter des choses qui vont se simplifier?
Oui, on a effectivement eu les annonces du nouveau ministre, Monsieur Kasbarian, qui a le mérite d'exister.
Ou les annonces.
Non, voilà, d'être présent et de vouloir essayer de faire bouger les choses. Ces annonces de simplification, elles sont toujours la bienvenue. Simplification pour les permis de construire,
les recours,
simplification pour les recours,
pour les maires.
C'est pas vraiment ces mesures qui vont débloquer la crise du logement.
On est assez d'accord, Caroline. D'autant qu'en fait, le problème qu'ils ont là au sein du gouvernement, c'est quand même cette équation budgétaire compliquée. C'est-à-dire que d'un côté, ils veulent faire des économies et de l'autre, ils voient bien qu'on est sur un secteur qui est à la peine. Donc en gros, on prend des mesures qui ne coûtent rien.
Exactement.
C'est ça le.
Exactement. On se rend bien compte que malheureusement, le ministre des Logements n'a pas les finances à côté avec les dispositifs qui vont disparaître. Ou s'amenuiser.
On parle Pinel, PTZ.
PTZ pour les maisons individuelles. On parle du Pinel, qui pour nous, pour moi, c'est vraiment un mauvais calcul. On le sait, ça rapporte énormément d'argent et de recettes fiscales pour le gouvernement, pour l'État. Et malheureusement, c'est ne voir qu'une seule partie de la médaille.
Alors Bérénice, il y a quand même un truc sur lequel le gouvernement veut mettre un peu de petits sous.
Le logement intermédiaire.
Tout à fait. Et un pacte a été signé cette semaine, justement, avec donc au ministère du Logement, avec Christophe Béchu, donc le ministre de la Transition écologique, Guillaume Kasbarian, le nouveau ministre du Logement, et les partenaires sociaux donc d'Action Logement, l'Union sociale de l'habitat, la Fédération des ESH, des entreprises sociales pour l'habitat, et la Caisse des dépôts et France Assureurs. Donc, en fait, en gros, ils veulent développer le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, qu'est-ce que c'est ? C'est, on l'appelle le LLI, donc logement locatif intermédiaire. En gros, c'est des logements entre les logements sociaux et entre les logements privés avec
on
un
est
loyer,
sur, ouais, loyer 10-15%
15 à 20% en dessous du marché, en fait, des prix du marché.
Béry, et c'est pour qui typiquement le logement intermédiaire ?
Les classes moyennes. Alors Gabriel Attal, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans son discours de politique générale, l'avait clairement dit, il veut vraiment désmicardiser pour promouvoir le travail, déverrouiller pour libérer la croissance. Clairement, c'est ça qu'ils veulent faire en développant le logement intermédiaire. Ça s'adresse à des gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à se loger dans les grandes villes parce que ça coûte trop cher pour eux, ils n'ont pas assez ils ont pas assez pour se...
Après, il faut faire très attention sur les plafonds de ressources. On est quand même sur des ressources qui sont relativement élevées, hein, pour le logement intermédiaire. C'est-à-dire que quand on avait posé la question aux bailleurs sociaux de leur demande de HLM, combien pouvait être éligible à un logement intermédiaire, en l'occurrence je crois que c'était peanuts, cacahuètes, ça devait être 3%, 4%, je ne sais plus, mais c'était assez faible. Donc on est quand même sur de la classe moyenne supérieure, hein, presque. Hein.
Ouais. Après, ça va dépendre des zones, je pense aussi. Donc justement, ce pacte, c'est pour étendre, donc développer 75 000 logements sociaux donc en 3 ans, qui seront neufs et anciens. Donc ça, c'est vraiment le but du gouvernement, l'objectif du gouvernement.
Et puis, logements sociaux ou logements intermédiaires,
intermédiaires. Donc 75 000 logements intermédiaires en plus en 3 ans. Et il y a vraiment un coup d'accélération de la part de l'État et puis aussi de la part des bailleurs sociaux, hein, parce que Action Logement a créé une filiale d'ailleurs depuis 2017, des filiales INLI qui sont dédiées au logement intermédiaire.
C'est le logement intermédiaire en Île-de-France.
Et la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat aussi, c'est le deuxième pacte qu'elle signe, le premier était en 2021, donc il y a vraiment une accélération des bailleurs sociaux pour ce type d'habitat.
Mais enfin, est-ce que ça peut suffire, Caroline ? J'ai envie de vous poser la question, parce que c'est vrai que le logement locatif intermédiaire, on appelle ça le Pinel des institutionnels. Est-ce qu'on peut se satisfaire et se suffire de l'investissement des institutionnels, j'ai envie de dire, versus le Pinel des particuliers qui va mourir à la fin de l'année?
Non, et clairement, le logement, quand tout va bien, c'est 96 milliards de revenus fiscaux. Hein, pour, je crois, non, je crois que c'est 96, je l'ai noté.
Je crois que ouais, 96 ans de vos chiffres, parce que moi, 80, je pourrais pas
c'est 96 milliards de recettes fiscales,
en moyenne,
pour seulement 42 milliards
de dépenses.
De dépenses et d'aides publiques. Hein, et la crise du logement, moi j'ai noté, c'est une baisse des recettes fiscales d'environ 7 milliards. Déjà pour l'État, donc le calcul
est mauvais.
Il est mauvais. Déjà le calcul est mauvais. Ensuite, on s'avance vraiment vers une autre crise qui va être la pénurie de logements. Donc là, quand je vois votre auditeur qui achète dans le neuf, franchement c'est super
et il a de la chance.
Mais on y reviendra parce que c'est le bon moment pour acheter.
Dans le neuf, ouais.
C'est le moment pour acheter dans le neuf, mais pour acheter.
Acheter tout court, ouais.
Parce qu'évidemment, quand les conditions de crédit vont encore se desserrer, vous allez avoir des prix d'immobilier qui vont remonter.
Ouais, on va
alors
en parler,
que là,
ouais,
par rapport au plus haut, dans les grandes villes, on est à moins 10 à Paris. Donc en fait, vous allez avoir une pénurie de logements, vous allez avoir des prix de l'immobilier.
Il y a déjà d'ailleurs
vont,
une pénurie de logements.
Ouais, mais qui ne vont plus baisser. Ouais, ouais.
Donc ces dispositifs fiscaux, j'espère vraiment que le gouvernement va faire machine arrière. Ils sont indispensables pour relancer le logement en France.
On va marquer une petite pub, mais avant ça, je voudrais vous lire un extrait du long mail que notre auditeur Arnaud nous a adressé, Marie, et nos experts vont peut-être pouvoir y répondre. Il nous dit que pour faire baisser durablement le prix des logements neufs, il faut carrément abroger la loi SRU.
Bah, il va être satisfait, Arnaud. Moi, je suis pas convaincue que ce soit la bonne solution, mais bon.
Imposer aux bailleurs sociaux de faire leur métier, qui est de produire et gérer des logements sociaux, et arrêter de faire subventionner le logement social par les acquéreurs de logements libres, qu'ils soient occupants ou investisseurs. On y réfléchit pendant la pub et on vous répond, on réagit à votre propos, Arnaud, avec nos expertes. À tout de suite.
Tout pour investir, les experts de l'IMO.
Nos
Nos expertes de l'IMO, Caroline Arnoux, de CAFPI, Bérénice Deville, de Radio IMO, et puis Deville Florio.
Ah oui,
me précise
Marie, va pas être content,
Bérénice. Bérénice Deville Florio, de Radio IMO, et puis Marie Cœur de Roy, notre Bernard Pivot des noms de famille qui est avec nous. Bon, très sérieusement, nous étions en train d'infuser le propos d'Arnaud, notre auditeur, qu'on salue, à notre discussion. Il nous dit en synthèse, si le prix des logements neufs est aussi élevé, cela est dû en grande partie au fait que le logement libre subventionne le logement social. De là à dire que le dispositif Pinel finançait le logement social, il n'y a qu'un pas. Arnaud, merci pour votre réflexion. Bérénice, une réaction s'il vous plaît.
Alors moi je me suis entretenue avec Pascal Boulanger, le président des promoteurs, la Fédération des promoteurs immobiliers. Et alors non, le coût de la construction, le coût du logement neuf n'est pas aussi élevé à cause de ça. En fait, le problème, c'est qu'il y a vraiment eu une inflation des matières premières. Donc ça joue énormément. Les promoteurs ont très peu de marge de manœuvre à cause de ça. On est dans un contexte de crise nationale, inflationniste. Donc ça joue énormément. Et donc le prix du foncier est plus cher aussi. On sort d'un contexte économique qui était assez l'argent circulait, ça a fait gonfler les prix. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui ont fait que le prix du neuf augmente, mais c'est clairement pas la solution.
Non, mais d'autant qu'en plus, moi j'ai envie de poser une question à notre auditeur et j'entends parfaitement ses arguments parce qu'on le rappelle, le coût d'une opération, comment ça se passe pour le promoteur, et c'est Arnaud qui bosse dans le neuf, donc il m'interrompra de loin si je me trompe. Mais c'est que quand vous vendez à des bailleurs sociaux du logement social, vous ne faites pas un immeuble que de logements sociaux, vous faites de tout. Et donc les biens en logement social sont vendus évidemment moins cher que dans le logement libre. Et donc pour équilibrer une opération, on va avoir des promoteurs qui vont peut-être bon an mal an un peu élever le prix des logements libres parce que le logement social leur sera finalement rémunéré moins cher. Moi la question que j'ai envie de poser à Arnaud, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait plus de logement social en France? Parce que est-ce que c'est pas toute la mécanique de l'équation budgétaire d'un promoteur qu'il faut revoir? Mais partir du principe que c'est parce qu'on fait trop de logement social alors qu'on n'a jamais eu autant de demandes
de
de logements sociaux, enfin, à un moment donné il y a quand même un enjeu de juste loger le peuple français. Donc voilà, moi je pose la question, je me pose la question si au lieu de faire des réformes au détriment de ceux qui sont le plus en besoin, on pourrait pas revoir l'équation budgétaire pour les promoteurs immobiliers.
Alors c'est la radio MRC, maintenant c'est les présentateurs qui posent des questions aux auditeurs. Donc Arnaud, si vous voulez nous répondre, l'adresse vous la connaissez puisque vous nous avez déjà joint en direct à bfmbusiness.fr, ou vous pouvez joindre également Marie en message direct
06
Caroline. Est-ce que vous avez une réponse pour Marie en attendant que peut-être que Arnaud, notre auditeur, nous réponde?
On voit bien qu'on est quand même dans une équation très très difficile. On n'arrive plus à se loger. Les méchants propriétaires, c'est difficile d'avoir des crédits parce que vraiment on diabolise un petit peu ça, mais les locataires, je sais pas si vous avez vu les délais pour trouver une location dans certaines villes, c'est plus de 6 mois. Donc là, si on ne construit pas des logements, ou si on ne rénove pas rapidement des logements, on va vraiment être dans une impasse extrêmement...
Et ça fait partie d'une réponse, Arnaud, je pense, à votre sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même produire du logement. Et encore une fois, on ne peut pas jeter l'opprobre tout systématiquement sur les bailleurs sociaux. Je vous rappelle quand même qu'ils ont aussi sauvé pas mal de promoteurs qui n'arrivaient tout simplement pas à vendre. Donc, même s'ils rachètent à prix cassé, ils rachètent quand il n'y avait plus un particulier pour acheter parce que les vannes du crédit étaient complètement fermées. Donc, de temps en temps, c'est chouette le logement social. Et puis, quand c'est les arranges, voilà. Donc, il faut trouver effectivement un équilibre. Puisqu'on parle logement neuf, je pense qu'il faut aussi qu'on parle emploi. Arnaud, ça le concerne aussi. On voit qu'il y a de grosses difficultés et qu'il y a de plus en plus d'emplois menacés. Alors, il y a toujours cette espèce de 100 000, 200 000, 300 000 emplois menacés. Bérénice, on en est où du côté des professionnels de cette construction?
Alors, construction et puis même plus globalement logement, ce serait 300 000 emplois qui seraient menacés d'ici mai 2025. Donc ça, c'est selon la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. Après, ils se basent vraiment sur les chiffres de mise en chantier, les autorisations. Pour vous donner quelques chiffres, moins 28,6% de mise en chantier ont été constatées sur 12 mois par rapport à l'année dernière. Donc c'est non négligeable. Et quasiment moins 28% d'autorisations sur 12 mois aussi par rapport à l'année dernière. Et ce qui qui est alarmant, c'est que donc ça c'est pour le logement neuf. Et il y a aussi le non-résidentiel qui est impacté. Donc le non-résidentiel, c'est quoi? C'est la construction de bureaux, d'hôtels, commerce, ouais, les administrations. Et là, pareil, on constate moins 11,2% de surface non-résidentielle commencée par rapport à la même période d'un an auparavant. Donc ça, c'est sur trois mois, de novembre dernier à janvier. Et puis, moins 14,7% de surface non-résidentielle autorisée sur cette même période.
Bérénice, ça c'est pour le constat. On sait tous que, globalement, ça va pas. Maintenant, on fait quoi? Parce qu'on n'arrête pas de dire le gouvernement n'en fait pas assez, mais qu'est-ce qu'on nous propose en parallèle?
Le problème, c'est que c'est une offre qui porte, c'est une crise qui porte donc sur l'offre, et sur la demande, ouais, sur le prix du foncier et sur le coût de la construction. Pour l'instant, le gouvernement a essentiellement parlé de l'offre. Donc il y a des mesures qui ont été annoncées pour résoudre la crise de l'offre. Là, ce que dit le président de la FFB, la Fédération française du bâtiment, hein, qui a quand même les pieds un peu sur terre, sur les chantiers, concrètement, il dit qu'il faut faire des mesures fortes. Il faut réinstaurer le PTZ 2023, hein, donc le prêt à taux zéro. Je rappelle qu'il a été remodelé, il exclut maintenant la maison individuelle, il exclut des zones, enfin voilà. Le AFFB dit qu'il faut aussi assouplir les règles fixées par le HCSF, dont on parlait tout à l'heure, donc le Haut Conseil de Stabilité Financière. Il faut instaurer enfin le fameux statut du bailleur privé,
sachant que le Pinel disparaît, mais bien sûr.
Le statut du bailleur privé, ça permettrait d'avoir des avantages fiscaux aux propriétaires bailleurs ou aux Français qui veulent investir dans la pierre pour louer. Il faut donner aux Français envie d'investir dans la pierre, parce qu'on a besoin des propriétaires bailleurs pour loger des gens. Il faut accélérer les travaux sur la suite du Pinel, pour la FFB. Et puis, il faut une pause normative pour la RE 2020, la réglementation environnementale 2020. Et enfin, il faut des simplifications générales pour le secteur. Donc voilà pour les propositions de la FFB.
Caroline, le retour du PTZ, la non-disparition du Pinel.
Mais
ou
bien sûr, mais tout ça, et on sait que ça.
Vous le voyez sur le crédit, je veux dire, l'impact de ces modifications législatives intervenues dans le cadre des différents
bien
projets.
Bien sûr, alors aujourd'hui, on le voit moins parce qu'aujourd'hui, le crédit n'est plus vraiment une problématique.
Un
à
sujet,
part,
ouais.
Le HCSF, où ça pourrait ouvrir encore plus, évidemment, les primo-accédants, les investisseurs. Parce que le HCSF est vraiment très impactant sur l'investisseur qui achète pour louer, puisque les revenus finalement de sa location ne rentrent pas dans le calcul. Enfin, c'est un petit peu
compliqué. Oui, ils ont modifié le mode de calcul, ce qui fait qu'ils dépassent systématiquement le taux d'endettement.
C'est des patrimoniaux, les gens qui ont de l'investissement locatif, c'est des gens qui à côté ont beaucoup de revenus, et donc ça bloque. Mais en dehors du HCSF, c'est vraiment ces aides à l'accession qui sont primordiales. Alors il faut. J'ai un peu peur le gouvernement joue la montre et espère que les conditions de taux vont faire un peu relancer la machine.
Alors le gouvernement, c'est Bercy, parce que c'est vrai que Guillaume Kasbarian, le nouveau ministre du Logement, il faut lui reconnaître qu'il a envie.
Il est zélé quand même.
Ouais, il a envie, il est motivé, il fait des annonces, il est investi, il se déplace. Il y a une énergie qu'il n'y avait pas chez les précédents ministres du Logement, faut le dire. Et Gabriel Attal aussi s'est emparé du sujet du logement, on a parlé, c'est la première fois qu'un premier ministre en parle ouvertement comme ça.
Donc rappelez-nous qui préside ce haut comité.
Le conseil, c'est Bruno conseil, Le Maire. Et c'est vrai que c'est lui qui aura le dernier mot, c'est Bercy, et puis c'est le gouvernement aussi, Emmanuel Macron.
Oui, c'est d'autant plus incompréhensible, c'est que c'est des systèmes qui s'autofinancent. Le PTZ, ça a été salué par la Cour des comptes, donc c'est vraiment des systèmes qui s'autofinancent, donc c'est vraiment incompréhensible.
Alors je dis à Jean-Philippe qui m'a écrit sur Twitter et qui me dit que la seule solution pour faire repartir le marché, c'est la baisse de prix. On est assez d'accord, Jean-Philippe, pour l'instant, on est assez d'accord. Le problème, et c'est justement la question que j'ai envie de vous poser, à toutes les deux d'ailleurs, Bérénice, Caroline, on dit que les taux, ça va mieux, le crédit, ça va mieux. Ces vendeurs qui avaient du mal à être convaincus l'année dernière de baisser leurs tarifs, est-ce que finalement, ils ne sont pas un petit peu plus incités, là encore plus, en ce début d'année 2024, à se dire bon, puisque les conditions d'emprunt sont meilleures, pourquoi j'irais baisser le prix de mon bien immobilier? Est-ce que le risque de cette petite machine qui repart?
Donc, si on formule, c'est les vendeurs n'ont pas intérêt à baisser leur prix.
C'est pas qu'ils n'ont pas intérêt, c'est qu'ils n'ont pas envie de baisser leur prix. Ils pourraient croire que la baisse des taux suffirait à.
Quand les taux baissent, les prix montent. C'est un système, c'est mécanique. Et c'est vrai que, personnellement, c'est ma crainte. Pourquoi les vendeurs vont baisser leur prix, sachant que les taux baissent? Certains professionnels disent que non, les prix vont baisser, etc. Personnellement, j'y crois pas.
Caroline?
Non, moi non plus, j'y crois pas. Il y a deux choses, dans l'équation. Il y a le prix du logement. Et il y a le taux de votre crédit. Et en fait, finalement, il y a deux choses qui vont baisser quand vous faites une acquisition. Il y a deux choses qui peuvent bouger. Une seule chose qui peut bouger quand vous faites votre acquisition, c'est le taux de crédit. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez acheter un logement. On est quand même bas, on peut négocier parce que les vendeurs veulent vendre, hein, aussi ceux qui sont obligés, mais ils veulent vendre.
Il y a de plus en plus de vendeurs pressés, on en parle.
On est sur du moins 10. Ils ont peur qu'il y ait encore une autre baisse des prix, mais qui n'arrivera pas forcément. Donc, vous pouvez négocier votre immobilier et vous allez l'acheter. Et ça va être un prix fixe, hein, toute votre vie. Par contre, votre crédit immobilier que vous allez avoir aujourd'hui, si vous êtes un très beau profil, 3,50 ou 3,70, vous, quand il y aura à peu près 1% d'écart, que les taux auront bien baissé, vous pourrez le renégocier.
Donc,
il ne faut pas attendre un
point bas. C'est ça, votre théorie, Caroline, c'est on n'a aucune certitude sur l'orientation des prix. En revanche, ce que vous savez, c'est que le taux pourra être négocié s'il baisse.
Exactement.
Et donc, votre conseil, c'est si c'est votre moment, n'attendez pas forcément, n'essayez pas de faire un calcul mathématique.
Si c'est votre maman, si vous avez trouvé le bien, si c'est le bon moment, si vous avez fait votre courtier vous a aidé à trouver le meilleur taux, allez-y parce que vous pourrez le renégocier. Par contre, quand un jour les taux de crédit seront encore meilleurs, les prix de l'immobilier ne baisseront plus. La pénurie de logements, si on finance pas la nouvelle construction de logements, si on ne finance pas l'investissement locatif, il y aura une pénurie de logements dans les 2 à 3 ans. Et là, les prix de l'immobilier, il va falloir, comme on a connu à une certaine période, se battre pour avoir l'appartement, avoir des prétendants à l'acquisition et puis des vendeurs qui choisissaient.
Une réflexion, si vous voulez bien, pour conclure cette émission de Franck. Un autre Franck. On a beaucoup de Franck, on a beaucoup de Michel qui nous écrivent. C'est vrai. Mais un autre Franck. Franck B, qui nous suit régulièrement. Pour conclure, peut-être, il nous dit, les taux baissent, oui, mais le problème, surtout, c'est qu'il faut une baisse de prix, mais beaucoup d'agents immobiliers n'ont connu que la hausse. Est-ce que les agents immobiliers savent gérer la stagflation, voire la baisse du marché? Alors moi, je vais lui répondre honnêtement, oui, il y a eu avec les taux à 1% l'émergence de plein d'agences immobilières nouvelles et de vocations nouvelles pour le marché de l'immobilier. Le fait est qu'il y a quand même un corps de métier qui existe depuis très longtemps. Vous le voyez assez régulièrement sur nos antennes respectives. On a des gens qui sont dans le métier depuis 20, 30, 40 ans. Le patron d'Orpi était cette semaine chez nous. C'est des gens qui ont un peu de bouteille, qui ont vécu des crises, qui s'en sont relevés. Alors évidemment, pour certains, ça va être dramatique parce qu'effectivement, ils ne sont arrivés que récemment sur le secteur. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne savent pas faire. Et bien au contraire, et c'est ce qu'on disait avec Caroline sur les courtiers, mais ça, c'est ma conviction profonde, c'est en période de crise qu'on revalorise certaines compétences et certains métiers. Exactement. C'est le cas des courtiers. C'est peut-être le cas des banquiers parce que je sais que je ne suis pas forcément très tendre avec eux aussi. Mais c'est certainement le cas des agents immobiliers qui, là, traversent quand même une période très compliquée et qui sont en position de faire valoir leurs compétences et leur expertise. Caroline ?
Oui, non, mais je suis d'accord. Hein. Et puis les agents immobiliers, ils se rémunèrent à la vente des biens. Donc c'est contre-productif de prendre plein de mandats et de jamais réussir à les vendre. Ouais. Donc un agent immobilier, il doit conseiller son client pour lui trouver, lui dire voilà le marché ce qu'il est aujourd'hui par rapport à votre bien, la fourchette de prix et puis la rencontre avec l'acheteur. Comme dit Marie, c'est un sacré boulot d'expert. Et c'est là où on verra les meilleurs qui continuent vraiment à poursuivre leur route.
Bérénice, le mot de la fin.
Non, oui, vous avez cité Orpi aussi, Century 21. Je me suis rendue à la convention nationale ce week-end et c'est vrai que eux, ils sont sur le marché depuis 87 en France. Et pareil, des crises, ils en ont connu. Et c'est vrai que les grosses machines, on voit que c'est elles qui résistent. Hein, les agents immobiliers, c'est eux qui résistent comparé aux autres modèles qui sont apparus récemment pendant justement cette montée des prix. Mais non, je pense que c'est important de se faire accompagner par des bons professionnels, surtout que l'achat d'un appartement, c'est pas n'importe quoi.
C'est l'achat d'une vie,
C'est l'achat d'une vie. Et quand on connaît pas forcément, quand c'est pas notre métier, faut faire appel à des professionnels. Ouais.
Voilà, merci mesdames pour ce tour d'horizon. Caroline Arnoux, directrice générale de CAFPI, Bérénice Deville Florio, directrice en chef de Radio Immo. Et puis vous, Marie Cœur de Roy, et nos nombreux auditeurs, vous avez vu nos deux Franck B, Franck NH, Arnaud, entre autres, et puis tous ceux qui nous écrivent au fil des émissions. Merci pour vos questions, elles viennent alimenter la pompe à questions et puis la discussion, vous l'avez vu, quand on peut,
notamment Jérôme qui nous dit que ça pourrait être une idée de consulter le PLU de la ville de Paris. Madame Hidalgo veut transformer les bureaux en logements sociaux et les bureaux en périphérie. Qu'en pensez-vous?
Eh bien, c'est moi, je dirai rien, je vais encore me faire insulter, alors je ne dirai rien.
Cher Jérôme, merci pour votre message, on vous répondra la semaine prochaine. Vous restez avec nous, on a parlé IMO, on a parlé bourse, maintenant nous allons parler crypto. C'est vendredi, on fait le bilan de la semaine pour savoir tout ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé côté crypto. À tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement, peut-être dans les cryptos, si vous faites partie de ceux et celles qui pensent que c'est une classe d'actifs à part entière, cette séquence est pour vous. Bonjour Stéphanie Fra.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la gestion active, de la recherche et de l'analyse chez CoinHouse. On va faire le point sur une semaine crypto qu'on pourrait résumer marché boule ou bulle.
Très bonne question. Je pense qu'on est plutôt dans un marché boule. Pour plusieurs raisons. D'une part, il y a quand même un flux depuis le début janvier sur les ETF spot, ce qu'on n'avait pas précédemment, dans les cycles précédents. Et on a déjà collecté un peu plus de 250 000 BTC sur ces ETF spot.
250 000 Bitcoin sur
Bitcoin,
ces ETF.
Bitcoin, exactement, sur ces ETF, ce qui est un très très gros flux, ce qui n'existait pas avant. Et on voit que c'est un flux régulier. C'est pas, on va dire, un one-off. Où on se dirait, une fois que ça a été investi, c'est fini, il n'y a plus rien. Là, on sent bien c'est un flux régulier qui arrive et qui, entre guillemets, n'est pas absorbé par les nouvelles productions de Bitcoin que produisent les mineurs. On commence à estimer que dans quelques mois, s'ils continuent à ce rythme-là en termes de collecte, on va avoir un vrai problème de fournir des bitcoins à ces gens-là. Donc, il y a une vraie pression acheteuse fondamentale liée à des gros investisseurs qui n'étaient pas là dans les cycles précédents.
Le profil de ces investisseurs ?
On est en train de parler des gens qui peuvent investir dans des ETF et qui n'investissaient pas avant. Donc pour moi, c'est plutôt des institutionnels. Donc je ne sais pas si c'est des fonds de pension, des gestions diversifiées qui cherchent quelque part à avoir des nouveaux actifs qu'ils n'avaient pas dans leurs allocations. Mais on est plutôt en train de parler d'investisseurs professionnels et non pas de riches particuliers qui n'avaient pas envie d'investir en direct sur du Bitcoin et qui disent « Ah bah tiens, à partir du moment où c'est un ETF, j'ai confiance et j'y vais ». Il y en a peut-être, mais je pense que c'est marginal.
Une institutionnalisation du profil de détenteurs de Bitcoin, en tout cas de gens intéressés. Vous parlez de l'ETF Bitcoin, qui date de janvier. On attend, on espère, enfin certains espèrent, un ETF sur l'Ether, un ETF spot sur l'Ether. Y en aura-t-il un ? Un jour, la SEC vient de repousser, la SEC américaine vient de repousser sa décision. Est-ce que vous pouvez nous résumer, nous raconter ?
Alors déjà, elle a repoussé les décisions sur certains dossiers. Donc elle ne repose pas tous les dossiers en même temps. Pour le moment, on est plutôt aligné sur une date au 23 mai. Il y a eu un développement quand même cette semaine qu'il faut avoir en tête, c'est la SEC a assigné la fondation Ethereum, en gros, dans une tentative plus ou moins voilée, de désigner Ethereum comme un titre financier. Donc ça, c'est pas nouveau.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, c'est surtout que si jamais Ethereum devenait un titre financier, déjà, ça veut dire que certaines plateformes n'auraient pas le droit de l'avoir chez eux, puisqu'ils n'auraient pas la licence pour le faire. Et en plus, on ne pourrait pas l'inclure dans un ETF, on va dire, qui essaierait de répliquer ce que fait Bitcoin, parce que Bitcoin, pour le moment, est considéré comme une commodity.
D'accord.
Donc c'est très subtil comme différence. Mais en gros, pour le moment, la SEC a envie de se battre contre cet ETF Ether en désignant Ether comme un titre financier. Pour autant, ils ont déjà mené cette bataille dans le passé et ils ont perdu. Et deuxièmement, ils ont accepté de lister des futurs sur le Chicago Mercantile Exchange sur Ethereum depuis début 2021. Et en fait, ils ne peuvent l'avoir fait que si ce n'est pas un titre financier. Donc c'est un peu subtil. Ça milite aussi pour dire ils peuvent essayer de qualifier Ether comme un titre financier. Il y a peu de chances qu'ils y arrivent. Ils ont déjà perdu. Ils ont perdu récemment sur Ripple. Ça va être très difficile pour eux de le prouver. S'ils n'arrivent pas à prouver que c'est un titre financier, en fait, on va dupliquer ce qui a été fait sur Bitcoin, sur Ethereum, et il n'y a aucune barrière à lancer ces ETF spot.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette bataille ? Vous utilisez vraiment le vocabulaire de la guerre dans la démarche, pour qualifier les démarches de la SEC. Que dit ces batailles que mène la SEC, de l'état d'esprit, de ce qu'on peut envisager, de ce qui va se passer dans le monde des cryptos, dans ce processus d'institutionnalisation dans les prochains mois ?
Alors, clairement, la SEC n'a jamais été volontaire d'en sortir des produits crypto pour les institutions. Pour autant, ils ont fini par céder faute d'arguments. Et on voit bien que derrière, il y a eu un engouement très important pour le produit ETF Spot Bitcoin dès qu'il est sorti. Et je pense que le sens de l'histoire, c'est que, quelque part, c'est les clients, c'est les investisseurs qui vont dicter finalement les règles à la SEC. Je pense pas que la SEC puisse dire à des gens dont c'est le métier d'investir, vous savez pas ce que vous faites, on va faire des choses pour vous et on va être beaucoup plus prudent pour vous.
À la fin, c'est le consommateur, c'est ce que vous nous dites.
Exactement. Donc, par contre, ce qui est important pour la SEC, c'est de donner des règles, on va dire, de sécurité pour ces consommateurs. Le fait de d'autoriser finalement un cadre d'ETF, ça veut dire que vous avez un dépositaire, vous avez une société de gestion qui est régulée, qui a le droit de faire du démarchage client. Donc, en fait, vous donnez quand même un cadre. Et je pense que le sens de l'histoire, c'est pas de s'opposer à ces ETF spot, c'est plutôt de les accompagner et de les encadrer. Peut-être pas sur toutes les cryptos, parce qu'il y a peut-être des cryptos où, effectivement, on peut se poser la question sur l'actif sous-jacent. Mais pas sur le schéma entre guillemets d'investissement.
Bon, reste que on parle d'un cycle haussier. Tout le monde reparle du Bitcoin, enfin en tout cas ceux qui ne sont pas des spécialistes ou des amateurs. Néanmoins, quand on voit la hausse soudaine puis la baisse quand même -15% du Bitcoin ces dernières semaines, est-ce qu'il faut s'inquiéter ?
Alors, si on regarde les cycles précédents. Et en fait, j'aime bien regarder les cycles précédents parce que finalement, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait.
Faites votre chartiste un peu.
Ouais, alors sans faire le chartisme, en fait, quelque part, le chartisme, il se base sur quoi ? Sur des comportements passés, en se disant, faute de mieux, je vais regarder ce qui s'est passé historiquement et c'est ma meilleure prédiction finalement de ce qui pourrait se passer demain. Et puis après, j'ajusterai en fonction des événements réels. Et en fait, quand on regarde dans les deux cycles précédents, ce comportement, on va dire, quand on a atteint l'ancien plus haut historique du cycle précédent, on a atteint ce niveau-là, on a eu une correction qui a duré 2 à 3 semaines, on a perdu entre 10 et 30%, et après, on a réatteint l'ancien plus haut historique, et après, on ne s'est plus jamais arrêté en faisant quasiment x2 sur le Bitcoin. Donc en fait, ce qu'on est en train de vivre là, c'est très très similaire à ce qu'on a pu vivre dans les cycles précédents. On a été un petit peu au-delà, 73 600, mais entre guillemets, quand on prend un pas de recul, c'est l'épaisseur du trait entre l'ancien record et 73 600. On est en train de faire un gros pullback. On a déjà, entre guillemets, trouvé des acheteurs autour des 60 000. Le prix a déjà réatteint 67 000. Là, il baisse un petit peu aujourd'hui. Mais on est vraiment dans la configuration où si on croit cette classe d'actifs, c'est le moment du cycle où il faut être vraiment investi. Bon. Et quelque part, ce petit retour en arrière, ça donne une petite chance à ceux qui ne sont pas montés en train.
Un mot pour finir sur la tokenisation du monde oui, réel. En tout cas, c'est une tendance, si on peut dire, sur laquelle BlackRock mise. Racontez-nous simplement pour conclure.
Alors, c'est entre guillemets le lien entre le monde financier traditionnel et le monde des cryptos. Ce lien, il est fait comment ? On met à disposition finalement, sous format crypto, des produits financiers standards. Ce qu'a fait BlackRock cette semaine, c'est simplement de mettre à disposition, format tokenisé, des fonds monétaires. Des projets comme ça, on en a vu pas mal d'autres passer, alors avec des acteurs beaucoup plus petits, mais c'est assez symptomatique que ce soit BlackRock qui propose ça. Ça montre leur engagement en termes de, comment dire, dans le monde de la blockchain, au-delà de l'ETF spot qu'ils ont fait sur le BTC, qui est un franc succès. Ils sont en train d'enchaîner. Il y aura effectivement l'ETF spot sur ETR, mais il y a également toute la partie tokenisation des fonds. Ils ont quand même 9 trilliards de dollars sous gestion. Je pense qu'ils ont pas mal d'idées d'autres types de classes d'actifs qui pourraient tokeniser pour permettre aux gens finalement de rester dans l'univers de la crypto, mais pour passer d'un actif à un autre.
Voilà, vers une tokenisation des actifs du monde réel, une tendance qu'on va continuer à couvrir évidemment dans cette émission, mais plus précisément dans celle d'Amaury de Tonquédec tous les jours, BFM Crypto, le club à 15h, 21h30 et puis n'importe quelle heure en podcast, BFM Crypto, le club, l'émission qui vous fait vivre en direct l'actualité du Web3 et en particulier de Bitcoin qui se négocie à l'heure où on se parle autour de 64 813 $. Merci beaucoup, cher Stéphane.
Merci.
Stéphane Ifra et toute l'équipe de CoinHouse pour ce décryptage hebdomadaire sur l'actualité Web3.
3. C'est la fin de Tout pour investir. Merci à toute l'équipe pour cette dense semaine. Merci à vous toutes et tous pour vos messages. Si vous avez attrapé l'émission en cours, pas de panique. Vous pouvez la retrouver sur vos plateformes de podcast préférées, qu'elles soient américaines, françaises ou bien l'application bfmbusiness.fr. Tout ça d'ici quelques minutes. Lundi, on sera au rendez-vous dès 10h. On a prévu de parler de comment investir judicieusement. Ça veut dire parfois choisir de ne pas investir. On parlera de ça avec Julien Nebenzal. Et puis, on sera avec un spécialiste de la Chine qui est convaincu qu'à court terme, eh bien, la situation économique de la Chine n'est pas inquiétante. Nous parlerons de la Chine du point de vue des investisseurs particuliers. D'ici là, il y a un gros programme sur BFM Business. Vous retrouverez Marc Fiorentino vers 20h, à 20h précisément, pour C'est votre argent. Mais avant ça, d'ici 5 minutes, Sandra Gandoin et toute l'équipe d'avec vous prennent les manettes.
Bonjour
Lorraine. Quel est le programme ? Bonjour Sandra.
On va parler du manque de sommeil chez les dirigeants. On va parler de transformation durable, de la semaine de 32 heures. On va se poser cette question aussi. Est-ce que tout le monde est fait pour entreprendre ? Ces questions et toutes celles que vous allez nous poser à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond pendant une heure avec Sophia Naklouf et avec nos quatre experts. Tout est possible. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, vos préoccupations à cette adresse. On y répond évidemment pendant toute une heure en direct.
Si vous avez déjà des problèmes de sommeil, petit conseil BFM Business, ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat. Parce que les entrepreneurs, c'est comme les bébés. Ça ne dort pas la nuit et ça se réveille souvent en pleurant. Bonne écoute sur BFM Business et bon week-end. Tout pour investir, c'est fini. Mais avec vous, ça commence dans moins de 4 minutes. À tout à l'heure.
Tout pour investir sur BFM Business.